Donc, je ne représente pas Jean-François pour ceux qui étaient là la dernière fois. Je voulais simplement vous dire plusieurs choses. D'abord que l'exposé se fera en une fois et sera un peu plus court que la dernière fois. Ça, c'est le premier point. Mais que surtout les élèves de Cagnes, ou éventuellement les collègues, peuvent poser des questions sur la première séance ou sur la deuxième séance. Le projet de ces deux conférences, c'était d'essayer de comprendre, au moins à Beauvau ou ab initio, comment c'était, je dirais, lié, goupillé, pas un mot de Heidegger, c'est pas un mot allemand, mais la question de la technique et la question de l'œuvre d'art qui n'est pas au centre de l'analytique du design, c'est-à-dire de l'œuvre qui a fait connaître et qui a fait la notoriété, disons, du point de vue de l'écrit en tout cas, parce qu'il a eu une notoriété d'enseignant en parallèle, de Heidegger. Heidegger a commencé à s'intéresser à ces questions à partir du début des années 30, et la dernière fois, comme je l'ai résumé dans le petit exposé que je vous ai envoyé, c'est notamment à partir de sa relecture de Nietzsche et de Junger, et puis évidemment d'autres éléments ont joué un rôle, que Heidegger s'est intéressé à cette question de la technique. Que vient faire? Alors, on a vu la dernière fois que la question de la technique était articulée à celle de l'interprétation par Heidegger de la techné des Grecs. En quoi cette question est reliée à celle de l'œuvre d'art? Voilà, à travers un exposé qui va faire qui va s'appuyer sur un commentaire de Schiller on le voit pas là, mais du lièvre de Dürer, eh bien, on va voir comment, en partie, Heidegger a relié la question de l'œuvre d'art à cette réflexion très étonnante, quand même, sur la techné.
Merci, merci Jean. Mon propos d'aujourd'hui est intitulé donc les intitulés ont un peu flotté, est intitulé res singularis, chose, monde et œuvre dans la pensée de Martin Heidegger. Et comme vous le verrez, donc on y trouve une autre figure de la techné au titre de l'art, dit Kunst, et de sa puissance de monstration ou de révélation différente, mais pas sans aucun rapport avec celle que nous avons esquissée la semaine dernière au titre de la technique ou de la techné. Alors je partirai d'une remarque qui, en première lecture, m'avait surpris de Georges Steiner, dans sa petite monographie. Sans prétention et qui peut être lu, consacré à Heidegger, qui est réédité dans la collection Champs Flammarion. Georges Steiner, comparatiste, hein, comme vous le savez, littéraire, entre guillemets, plutôt que philosophe, écrivait ceci donc dans son petit ouvrage consacré à Heidegger. Heidegger possédait, comme peu d'hommes aujourd'hui, une sensibilité personnelle presque étrange au grain et à la substance de l'existence physique, à la choséité et à la cuidité obstinée des choses, du rocher comme de l'arbre ou de la présence humaine. Cet énoncé, je le disais donc, m'avait paru d'abord assez surprenant, cette attention au grain des choses et leur cupidité obstinée, et je m'étais mis en quête de manière évidemment non exhaustive ni systématique, mais plutôt pour m'amuser, de repérer ou de recenser un certain nombre de choses dans l'œuvre de Heidegger. On pourrait le faire dans le corpus d'autres philosophes, hein, ce serait intéressant. Recenser donc les choses dans l'œuvre de Heidegger par chose, en allemand « ding », mais le latin « res » ferait aussi bien l'affaire. Par chose, il faut entendre aussi bien une pierre, un galet, qu'une plante, un animal, un objet fabriqué, un objet d'usage, un outil, si l'on veut, tout ce qui comporte une dimension de, dit Heidegger dans son langage, dans son jargon, tout ce qui comporte une dimension de Dinghaftigkeit, tout ce qui a une teneur, une structure, chosale, chosique. Cette teneur de choses que Heidegger va s'efforcer de dégager et qu'on ne saurait traduire sans perte excessive par le mot français de réalité. Je ne dis pas de la réalité, au sens où on oppose réalisme et l'idéalisme, des choses de ce genre. Il s'agit, encore une fois, sous ce terme un peu étrange en allemand comme en français, n'est-ce pas, de Ding, enfin en français... a fortiori, mais de Dinghaftigkeit, hein, ce qui constitue encore une fois la structure, la teneur de la chose, si on pouvait dire ça en français, on dirait sa choséité, on pourrait dire réalité, si on pouvait encore une fois décaper le terme de réalité de toute son de toute l'histoire sémantique qui le recouvre. Toute la première partie de la conférence de 1936 sur l'origine de l'œuvre d'art, un texte que vous connaissez sans doute, toute la première partie de cette conférence sur l'origine de l'œuvre d'art est intitulée Das Ding und das Werk, la chose et l'œuvre, la chose et l'œuvre. Et elle s'attache à dénouer délicatement, me semble-t-il, sous la forme d'une autocritique assez radicale des analyses que Heidegger lui-même avait proposées dans « Être et temps », elle s'efforce de dénouer l'écheveau qu'on trouve dans « Être et temps » entre « Zeug », l'outil, l'instrument, le « Ding », la chose, et l'œuvre. Vous vous souvenez, vous avez lu, n'est-ce pas, certaines analyses de d'être et temps, où Heidegger critique le primat généralement accordé à la chose, à la res extensa, hein, où Heidegger critique le primat généralement accordé à la chose dans la perspective d'une saisie liée précisément à la perception. Pour montrer comment ce primat accordé à la chose comme chose perçue, spatiale, vient recouvrir un rapport plus originel, primordial, si l'on veut, à la chose dans son utilité, dans son instrumentalité, à la chose comme Zeug, encore une fois dans le langage de Zeinunzeit, ou autrement dit, en grec, Heidegger introduit dès le paragraphe 15 de Zeinunzeit le terme, n'est-ce pas, la chose envisagée comme pragma, les pragmata, ta pragmata. Et la première partie de l'analytique, donc, s'efforce de regagner une conception, alors il faut beaucoup de guillemets, n'est-ce pas, une conception pragmatique, des étangs qui nous entourent, des objets du monde environnant, une conception pragmatique qui les ressaisit ces objets, ces entités, n'est-ce pas, qui les ressaisit dans un contexte, dans un complexe, Zusammenhang, dans un complexe instrumental. C'est-à-dire la chaise sur laquelle vous êtes assise, n'est-ce pas? Avant d'être une chose, c'est un instrument pris dans le contexte de cette salle, elle-même prise dans le contexte de ce bâtiment, ancien foyer des lycéennes, etc., etc., n'est-ce pas? C'est une abstraction que d'envisager la chose comme un objet sensible étendu. Et il importe donc de... c'est ça, le geste, n'est-ce pas, qui conduit au Zeug. Hein, il importe de... reconduire effectivement donc ce que la tradition Descartes, par exemple, dans les principes, saisit immédiatement comme res extensa dans un contexte instrumental. Un contexte instrumental, celui du Zeug, avec à nouveau la même structure que la Ding-Haftigkeit, n'est-ce pas? Avec sa Zeug-Haftigkeit, il s'agit de définir, de déterminer ce que c'est que la structure du Zeug qui fait que quelque chose est un Zeug, par exemple ceci étant un stylo, un instrument pour écrire. Et donc dans Ein und Zeit, Heidegger circule entre le Ding, la chose qui est critiquée, n'est-ce pas, au titre encore une fois d'une tradition on peut dire cartésienne, en allant très vite, qui est encore présente dans la perspective phénoménologique ou serlienne, hein, où l'intentionnalité, c'est d'abord la visée des choses, Ding und Raum, chose et espace, hein, et la visée des choses prises dans leur abstraction, c'est-à-dire isolée, n'est-ce pas, d'un contexte instrumental de leur usage. Pour mettre l'accent, je suis toujours, n'est-ce pas, à l'analytique de ce que Heidegger appelle l'analytique du Dasein, au début de Sein und Zeit, à partir du paragraphe 15, pour mettre l'accent, n'est-ce pas, sur ceci que le Zeug, la chose d'usage, prise dans un contexte instrumental, renvoie à un monde environnant, à un monde ambiant, hein, qui est ce que Heidegger appelle d'abord le Werk Welt. Hein, le Werk Welt, le monde des choses au sens où ce monde des choses et des œuvres, c'est le monde dans lequel précisément se trouve mis en œuvre un rapport pragmatique qui est celui du travail ou de la production, dans un atelier. Le modèle, si on peut dire, et si je ne crains pas la caricature, mais avant Sein und Zeit, dans les prolégomènes à l'histoire du concept de temps, un cours de 24-25, Heidegger lui-même emploie l'expression, n'est-ce pas, la première saisie du monde ambiant, n'est-ce pas, c'est celle du Werk Welt, Werk Staat, quelque chose comme l'atelier. On est d'abord dans un atelier au sens large, n'est-ce pas? Donc cet écheveau, Ding, Zeug, Werk, au début de la conférence sur l'origine de l'œuvre d'art, et en particulier donc, dans la section intitulée La chose et l'œuvre, dans ce que j'appelle une autocritique de la perspective, disons, on va dire, pragmatiste et utilitariste de l'ouvrage de 27 que Heidegger donc s'efforce de réexaminer, de réévaluer. Cette section de la conférence sur l'origine de l'œuvre d'art, que malheureusement la traduction française dans les chemins qui ne mènent nulle part, cette autocritique, disons, ne permet pas, la traduction ne permet pas vraiment d'en prendre toute la mesure, puisque les traducteurs, assez mal inspirés, ont traduit le mot Zeug, qui est encore une fois le terme central dans l'analyse de Seinzeit, non plus par outil, instrument, mais par produit. Donc, quand vous relirez ces développements de la conférence sur l'origine de l'œuvre d'art, soyez attentifs, n'est-ce pas, même pour les non-germanistes, à ce que le produit doit être pris non pas par rapport à un processus de production dont ce serait le résultat, le telos, n'est-ce pas, mais plutôt comme une chose d'usage. Je passe sur ce point. Je reviens très rapidement à un résultat de mon enquête rapide sur les choses qu'on rencontre dans l'œuvre de Heidegger. Dans un espèce d'inventaire à la Prévert, on trouve dans l'œuvre de Heidegger, il suffit de parcourir les textes, on trouve une pierre sur le chemin, une motte de terre, un arbre, un aigle, un taureau, un serpent, une cigale, plusieurs lézards. On s'intéresse aux animaux de Nietzsche et de Zarathoustra. Je crois qu'on pourrait aussi s'intéresser aux animaux de Heidegger, et ce ne serait pas du tout insignifiant. La pierre sur le chemin, la motte de terre, l'aigle, le taureau, le serpent, la cigale, les lézards, la cruche, évidemment, la fontaine au bord du chemin, l'eau de la fontaine, les nuages dans le ciel, le chardon des champs, la feuille dans le vent d'automne, mais on trouve aussi des tables, des chaises, des tableaux noirs, des morceaux de craie, des marteaux, des pendules, des chaussures, des gares et des halls de gare, j'en parlais la dernière fois, des tramways. On trouve encore l'autour ou l'épervier, au-dessus de la forêt, un chevreuil, un hanneton, un escargot, un brin d'herbe, ce que Heidegger appelle « blosseding », des choses de rien, de simples choses, des choses qui ont l'air insignifiantes. Je souligne déjà, n'est-ce pas, que dans les expressions que je viens de, enfin les exemples que je viens de donner, hein, une pierre sur le chemin, une motte de terre, la feuille dans le vent d'automne, la fontaine au bord du chemin, l'eau de la fontaine, on a déjà affaire à des choses qui sont elles-mêmes d'emblée saisi dans un certain contexte signifiant, hein, global, c'est pas simplement la pierre, mais une pierre sur le chemin. Ce sont là des choses de rien, des choses de peu de considération, comme le disait Ponge dans son parti pris des choses. Cette énumération à poursuivre ne tient pas compte du nombre considérable de choses qu'on rencontre aussi dans le corpus heideggerien et qu'il est amené à commenter simplement en fonction des auteurs qu'il lit: Hölderlin, Nietzsche, Rilke, Trakl, Georg, Mörike, etc. En prenant en considération ces choses qui lui viennent de ces des textes qu'il commente, alors le nombre de ces choses blosseding, des choses de rien, insignifiantes, serait beaucoup plus important. Dans la longue introduction au cours qu'il donne à l'université de Fribourg durant le semestre d'hiver 1935-1936, donc on est dans une période exactement qui coïncide exactement, n'est-ce pas, avec la conférence sur l'origine de l'œuvre d'art. Il y a eu trois séries de conférences. Je n'entre pas dans le détail de la chronologie ici, mais là, on est en plein dans la même période de travail de Heidegger. Dans le cours qu'il donne à Fribourg, dans le semestre d'hiver 1935-1936, et qui était annoncé sur les panneaux de l'université ou dans les programmes, au titre de « Questions fondamentales de la métaphysique », Question fondamentale de la métaphysique, ce cours que nous connaissons aujourd'hui sous un autre titre, qui lui a été donné après coup, le cours Die Frage nach dem Ding, qui a été traduit en français par Qu'est-ce qu'une chose? Dans ce cours, Heidegger évoque à plusieurs reprises, selon une stratégie argumentative assez complexe, sur laquelle je ne peux pas m'arrêter, il faudrait prendre beaucoup de temps, évoque à plusieurs reprises dans l'introduction de ce cours la figure bien connue de la petite servante Thrace, telle qu'elle a été brossée par Platon dans le Théétète, et dont vous vous souvenez. La petite servante Thrace se moque de Thalès, qui, les regards tournés vers le ciel, vers en haut, Anno Blépone, pour observer la voûte céleste, serait tombé dans un puits. Théétète 174a et suivante. Si désireux de connaître les choses du ciel, ta en urano, Thalès n'aurait pas pris garde à ce qui se trouvait pour ainsi dire sous son nez, ou mieux devant ses pieds. La tournure grecque est assez jolie ici, même si Heidegger ne la sollicite pas dans son commentaire. Ta dem prosten autou kai parapodas, lantanoi auton. Les choses qui sont en face de lui, em prosten autou, et devant ses pieds, parapodas, lantanoi auton, lui demeurait caché, inaperçu. La petite servante se fait l'écho d'une sagesse gnomique qu'on trouve par exemple attestée chez Pindare dans la troisième Pythique, 106-108. Je cite Pindare, « Il ne faut demander aux dieux, en fait c'est les daimones, il ne faut demander aux dieux que ce qui convient à des cœurs mortels, il faut regarder à nos pieds et ne pas oublier notre condition. To par podos. Sagesse gnomique, également présente chez les tragiques, par exemple dans Édipe Roi, où Créon évoque, c'est un des éléments de l'ironie tragique, la sphinx qui nous contraint de regarder en face ce qui est devant nous ou à nos pieds, to prosposi scopein. Particulièrement cruel à l'égard de d'Édipe. Sans surinterpréter donc cette référence à Platon et au Théétète dans l'introduction du cours, introduction très soigneusement composée par Heidegger, sans non plus affirmer purement et simplement ni même suggérer que Heidegger se laisse gagner par le rire insolent de la petite servante. Il venait lui-même de tomber lourdement dans un puits. Il est sans doute permis de souligner que le motif qui illustre cette célèbre anecdote relative à Thalès, à savoir celui de sauter par-dessus le domaine des choses, celles qui sont devant vous, à vos pieds, sans s'en apercevoir, en allemand den Bereich der Dinge überspringen, ce motif, sauter par-dessus le domaine des choses, est un des motifs centraux du cours de 1935-1936. Sauter par-dessus les choses, überspringen, ça veut dire aussi, nécessairement, on en reparlera tout à l'heure, überspringen, sauter par-dessus le phénomène du monde, sauter par-dessus le monde, ne pas voir le monde. On voit à travers cette formule, den Bereich der Dinge überspringen, sauter par-dessus le domaine des choses, On voit à travers cette formule le déplacement considérable qui a été opéré par Heidegger depuis l'ouvrage de 1927, pour lequel il s'agissait, au moins dans sa première section, que je rappelais tout à l'heure, Heidegger mettant en avant, n'est-ce pas, l'approche grecque des choses comme pragmata, qui renvoie au pratein. On voit bien donc le déplacement qui a été opéré par rapport à l'ouvrage de 27, pour lequel il s'agissait précisément, sinon de sauter par-dessus les choses, du moins de déconstruire le primat qui leur a été accordé par la tradition philosophique et jusque dans la phénoménologie centrée sur la perception, perception censée élucider le motif fondamental de l'intentionnalité. La phénoménologie, c'est une phénoménologie de la perception. C'est vrai pour Merleau-Ponty, mais c'était vrai aussi pour Husserl. C'est contre ce primat de la perception et de la chose perçue corrélative, n'est-ce pas, que Heidegger, dans Ein und Zeit, menait le combat, en tentant de réévaluer, au titre de son analyse du Zeug, de l'outil, n'est-ce pas, une dimension pragmatique, précisément omise, occultée par ce primat d'un paradigme perceptif. Heidegger revient donc là-dessus en 35 dans la conférence sur l'origine de l'œuvre d'art et dans ce cours si important qu'est-ce qu'une chose. Pourquoi et comment la métaphysique tournée vers les réalités suprasensibles, celles de là-bas, vient-elle à s'instituer dès Platon et Aristote à travers un tel saut par-dessus les choses? Dans le paragraphe 15 de Sein und Zeit, Heidegger disait « Les Grecs avaient un mot bien meilleur que « ding res », à savoir « pragmata ». Mais au fond, ce mot dont ils se sont servis, n'est-ce pas, ils n'ont pas pensé à la mesure de ce que pouvait leur suggérer le mot grec « pragma »,« pragmata », qui renvoie à praxis, pratein. C'est là un geste fréquent chez Heidegger, n'est-ce pas, d'en appeler à la force portante d'un terme que les Grecs employaient sans l'avoir véritablement pensé à fond. Donc pourquoi la métaphysique, tournée vers les choses d'en haut, de là-bas, écueil, s'institue-t-elle en sautant ainsi par-dessus les choses? Telle pourrait être la question directrice de Heidegger à partir du milieu des années 30, celle qui prend, cette question qui prend en un sens le relais de l'interrogation qui avait été élaborée durant la période de Marbourg, pour aboutir dans Sein und Zeit, la question qui portait dans Sein und Zeit sur le ratage, l'omission du phénomène du monde. Überspringen, encore une fois, sauter par-dessus, c'est le même verbe que l'on retrouvait en effet associé dans Sein und Zeit au phénomène du monde, pour caractériser aussi bien la démarche platonico-aristotélicienne, les Grecs n'ont pas vu, sont passés par-dessus le phénomène du monde, que pour caractériser la démarche de Descartes ou de Kant. Cette question directrice, pourquoi donc la métaphysique a-t-elle ainsi méconnu, est-elle passée par-dessus, a-t-elle sauté par-dessus le phénomène du monde et des choses? Cette question s'approfondit et se déplace même donc à la faveur du cours consacré aux questions fondamentales de la métaphysique, autrement dit à Die Frage nach dem Ding, à la question de la chose. Hein. J'insiste sur ce double intitulé, qu'est-ce qu'une chose? Qu'est-ce qu'une chose? C'est un cours qui porte sur les questions fondamentales de la métaphysique. Toute l'introduction du cours, j'y reviens dans un instant, est consacrée donc à la dramatisation de cette interrogation sur la chose, s'il est permis de parler ainsi, toute l'introduction du cours tente quelque chose comme une historicisation de cette question de la chose. Heidegger récapitule de manière tout à fait significative ce point dans ce qui tient lieu de conclusion du cours, Qu'est-ce qu'une chose ? Heidegger récapitule de manière tout à fait significative ceci. En effet, approfondissant pour le coup ce qu'il avait déjà thématisé dans Ein und Zeit au paragraphe 69, comme le projet mathématique de la nature, Galilée, Descartes, Heidegger montre magistralement, et Foucault lui fera discrètement écho dans les mots et les choses, montre comment c'est bien la mathésis qui définit à partir de Galilée, puis Descartes, Leibniz, Newton, et jusque dans la première critique, le trait fondamental de la pensée en général, lui fournissant ainsi un nouveau sol à la pensée. N'est-ce pas ? C'est la mathésis qui constitue le sol de la pensée. Il s'agit de retrouver un autre sol que celui projeté dans ce projet mathématique de la nature. Alors je dis ça, j'ouvre une toute petite parenthèse politico-polémique. Retrouver un autre sol, Boden en allemand, ça signifie pour Heidegger, même en 35-36, et peut-être surtout en 35-36, n'est-ce pas, retrouver précisément quelque chose comme un ancrage à partir duquel on puisse accéder à nouveau au rapport, à un rapport non abstrait aux choses mondaines, au monde. Ça signifie pas nécessairement retrouver le sol au sens du Blut und Boden, hein, retrouver le sol, celui de l'enracinement, qui était un des leitmotifs de l'idéologie nationale socialiste. Je cite un passage du cours dans la traduction française, c'est page 107. L'essence du mathématique, la mathésis, donc l'essence du mathématique comporte en propre une volonté de façonner de manière nouvelle la forme du savoir comme telle et de la fonder sur elle-même. Là où est lancé le jet du projet mathématique, celui qui lance ce projet, Der Werfer dieses Wurfes, celui qui lance ce projet s'établit sur un sol qui est avant tout issu du projet. C'est la mathésis qui fournit le sol. Le lanceur du jet, Galilée si l'on veut, ou Descartes, s'établit sur un sol qui est, encore une fois, issu du projet. Au terme de son étude de l'analytique des principes dans le cours, qu'est-ce qu'une chose, consacré au terme de son étude de l'analytique des principes, où l'accent est mis non plus comme dans le livre sur Kant, le premier livre sur Kant de 29, sur le premier chapitre de l'analytique consacré au schématisme, mais sur le chapitre suivant qui brosse le système de tous les principes de l'entendement pur, Heidegger rappelle comment choses et corps sont représentés dans la physique mathématique, à savoir comme choses étendues et résistantes. Par voie de conséquence, la diversité intuitive se trouve réduite à une diversité de données de sensations. Et Heidegger ajoute, c'est le point qui m'intéresse, que si pour la physique expérimentale de l'atome, aujourd'hui, le donné n'est rien d'autre qu'une multiplicité de taches lumineuses et de traces laissées sur des plaques photographiques, ce donné ne requiert pas moins de présupposés que l'interprétation d'un poème. Voilà que surgit de manière assez inattendue dans le commentaire de l'analytique des principes de Kant, réactualisé en référence à la physique atomique, voilà que surgit de manière assez inattendue une référence au Gedicht, au poème, et au présupposé qu'implique son interprétation. Qu'en est-il, demande Heidegger, de ces présuppositions qui sont toujours déjà mises en œuvre par la physique contemporaine? Ce sont bien sûr celles qui sont inhérentes aux appareils de mesure, dans leur apparente solidité palpable, comme si celle-ci, la solidité dont on s'assure grâce aux appareils de mesure, était susceptible d'instaurer un sol, Boden toujours. Ce sol, demande à dire, est-il plus ferme que les interprétations des poètes dans les sciences de l'esprit, interprétations dont on prétend qu'elles reposent seulement sur des lubies subjectives? Et au-delà du poème, intervient alors une référence plus sûre, ou en tout cas plus générale, à l'œuvre comme Kunstwerk, comme œuvre d'art. Je cite un peu longuement ce joli passage de la conclusion, donc du cours, qui a souligné, encore une fois, n'est-ce pas, les caractéristiques de la chose dans la perspective de Kantienne, de l'analytique des principes, et plus précisément encore dans la perspective de la physique newtonienne, puis sans rupture véritable aux yeux de Heidegger, la physique atomique. Mais en attendant, il y a par bonheur encore des choses, dit Heidegger, en dehors des ondes lumineuses et des influx nerveux. Il y a la coloration et la brillance des choses elles-mêmes. Le vert de la feuille et le jaune du champ de blé, le noir du corbeau et le gris du ciel. Le rapport à tout cela n'est pas simplement là. Il doit être constamment présupposé, comme cela qui, par le questionnement physiologique et physique, est tout à la fois brisé et détourné de son sens. Voilà la véritable présupposition, hein, la véritable Voraussetzung, celle d'un « il y a », j'ai plus le texte allemand, mais c'est probablement quelque chose comme un « es gibt », il y a la coloration et la brillance des choses elles-mêmes, le vert de la feuille, le jaune du champ de blé, le noir du corbeau, le gris du ciel. De ces présuppositions-là, on ne peut pas faire l'économie, n'est-ce pas ? Et même la science qui se veut voraussetzungslos, sans présupposition, ne peut pas présupposer quelque chose comme un « il y a la coloration de » etc., etc., etc. Je poursuis ma lecture. La question s'élève, qu'est-ce qui est plus étant? Cette chaise rustique avec la pipe que montre la peinture de Van Gogh, ou les ondes lumineuses qui correspondent aux couleurs appliquées sur la toile, ou encore les états de sensation que nous avons en nous lorsque nous considérons le tableau. Voilà une apparition un peu inattendue, n'est-ce pas, de Van Gogh et d'une toile de Van Gogh à la fin du cours de 35-36. Qu'est-ce qui est, de manière emphatique, qu'est-ce qui est le plus étant? Par exemple, cette chaise rustique avec la pipe, etc., etc., ou bien les ondes lumineuses dont nous parle la physique atomique. Je parlais il y a un instant de dramatisation et d'historialisation dans l'introduction générale du cours et dans la conclusion. Ce sont en effet ces traits qui ressortent véritablement en pleine lumière, à travers ce qui constitue cette fois la conclusion proprement dite, c'est-à-dire quasiment les dernières lignes du cours Qu'est-ce qu'une chose ? Je cite un petit passage. La question Qu'est-ce qu'une chose ? Est la question Qui est l'homme ? La question Qu'est-ce qu'une chose ? Est la question Qui est l'homme ? Cela ne signifie pas que les choses se ramènent à un produit humain. Cela veut dire au contraire Il faut comprendre l'homme comme celui qui, depuis toujours, saute par-dessus les choses. Mais un tel saut n'est possible qu'en tant que les choses s'offrent, viennent à sa rencontre, et ainsi demeurent précisément elles-mêmes, en tant qu'elles nous renvoient en arrière de nous-mêmes et en arrière de notre surface. Robert Fleischer. Pas très facile à comprendre ce passage que je relis. Poser la question qu'est-ce qu'une chose dans sa radicalité, n'est-ce pas, c'est poser la question qui est l'homme. La question qui est l'homme, c'est aussi la question de Zionzeit. Poser la question des choses, évidemment, c'est pas les envisager simplement comme un produit, et dans leur articulation, la question qui est l'homme, n'est-ce pas, c'est pas simplement les envisager comme le produit de comme des artefacts, comme des produits de l'activité humaine. Non, il faut comprendre plutôt que l'homme est celui qui, depuis toujours, saute par-dessus les choses. Mais sauter par-dessus les choses, ça n'est possible que si, préalablement, les choses se sont offertes à lui, si elles sont venues à sa rencontre. Le terme allemand ici, c'est « begegnen ». Begegnen, die Begegnung, c'est la rencontre. Préalablement à toute objectivation, Gegenstand, préalablement à toute saisie scientifique de la chose dans sa structure atomique ou subatomique, n'est-ce pas, il y a ce Begegnen, qui est encore une fois un des termes tout à fait importants dans toute la réflexion de Heidegger. Begegnen. C'est important parce que le Begegnen, la rencontre, c'est embêtant de traduire, enfin c'est embêtant, c'est pas idéal de traduire en français par rencontre, parce qu'il y a toute une phénoménologie de la rencontre, etc., qui a une dimension comme ça, disons, personnaliste. C'est pas ce que veut dire, c'est pas ici ce que veut dire Heidegger. La rencontre, c'est ce qui nous vient, c'est ce qui vient à notre rencontre, ce qui nous vient à l'encontre, si on pouvait parler comme ça, préalablement à toute thématisation, à toute objectivation. Et c'est ça qui définit la véritable proximité. C'est pourquoi j'ai écrit ce terme de « née la proximité ». Une grande question de Heidegger dans sa réflexion sur la chose, c'est le début du texte d'ailleurs des essais et conférences intitulé Das Ding, la chose. Un des leitmotifs de la réflexion de Heidegger sur la chose, c'est précisément la question de la dynée, de la proximité. Qu'est-ce qui nous est le plus proche? Même si cette proximité est ceux que nous aurons toujours méconnus, disons au-delà de quoi nous aurons toujours déjà sauté à pieds joints. Voilà, je te rends ce micro là. Alors, je termine mon petit commentaire du passage. Les choses s'offrent à nous, elles viennent à notre rencontre. Et c'est ainsi qu'elle demeure précisément elle-même, et elle nous renvoie en arrière de nous-mêmes. Elle nous renvoie en arrière de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, elle nous renvoie en arrière de nous-mêmes? Ça veut dire, je pense, précisément que ce sont elles, les choses, pour autant qu'elles viennent à notre rencontre, que nous les rencontrons, n'est-ce pas, qui nous conduisent à relancer ou reposer la question « qui ?» Et l'homme, qui sommes-nous, au-delà de ce qui est notre simple Oberfläche, surface? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que la surface ici, ça renvoie précisément, n'est-ce pas, à tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, à tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité ou de la sensibilité impressionnelle, de tout ce qui nous affecte. En arrière de nous-mêmes, en arrière de notre Oberfläche, notre surface. Voilà un des points évoqués dans la conclusion de ce livre. Par rapport à l'autre grand livre sur Kant de Heidegger, le Kant pour, comme on dit couramment, Kant est le problème de la métaphysique de 1929, l'accent est donc singulièrement déplacé. Kant pose bien, en un sens, la question de la chose, mais dans la mesure où la chose qui est pour lui d'emblée accessible, c'est la chose de la nature, natur ding, comme l'objet d'une expérience possible, il est permis de dire que Kant, lui aussi, a omis d'entrée de jeu de poser véritablement la question de la choséité, ding, Haftigkeit, des choses qui nous entourent. Le saut par-dessus les choses qui nous entourent est tout sauf une omission fâcheuse, une négligence qu'il serait facile de corriger à l'aide d'un simple complément. Voilà ce qui est impossible, précise Heidegger, car la détermination de la chose, je cite, c'est dans la traduction page 139, la détermination de la chose et la manière dont elle se met en place implique des présupposés principiels qui s'étendent à la totalité de l'être et au sens de l'être en général. Poser la question de la chose, c'est d'une certaine façon poser la question de l'être, c'est envisager le sens de l'être en général. L'interrogation qui est mise en œuvre dans la question de la chose n'est donc rien d'autre pour l'homme connaissant qu'une façon décisive, je cite à nouveau, qu'une façon décisive de prendre pied au sein de l'étang dans son ensemble. Dans l'élaboration de cette question de la chose se joue, je cite à nouveau, page 139 dans la traduction, dans l'élaboration de cette question se jouent des décisions dont l'espace de jeu temporel, zeitlicher Spielraum, et l'espacement de notre histoire ne peuvent être considérés qu'à la mesure des siècles. Voilà ce que j'appelais l'historicisation ou l'historicisation, oui, de la question de la chose. Se jouent des décisions dont l'espace de jeu, l'espacement de notre histoire ne peuvent être considérés que par siècles, qu'à la mesure des siècles. Des catégories aristotéliciennes aux catégories kantiennes, par exemple. C'est déjà sur ces dimensions historiales de la question de la chose qu'insistait Heidegger dès le début du cours. Une chose, cela s'entend en général, précisait-il, au sens de tout ce qui est saisissable, de tout ce qui est visible, de tout ce qui est donné à portée de la main, das Vorhandene. Par exemple, et ici à nouveau l'énumération m'intéresse, par exemple, une pierre, un morceau de bois, des ciseaux, une horloge, une pomme, une croûte de pain. Et un peu plus loin, les choses inanimées et aussi les choses animées, une rose, un arbuste, un hêtre, un sapin, un lézard, une guêpe. On pourrait ajouter un lièvre, une fontaine romaine, celle qui sera commentée dans l'origine de l'œuvre d'art, à partir d'un poème de Mayer, une fontaine romaine, une cruche, un pont. Choses qui nous entourent, qui nous sont les plus proches, nées, choses de rien ou de peu de considération, je me réfère à nouveau à Francis Ponge, que je n'entends pas heideggerianiser. Ponge tenait Heidegger pour un, dans une lettre à Poyan. Mais peu à peu, je passe. Si l'on veut en apprendre davantage sur ce qu'est à chaque fois l'une de ces choses, grossièrement énumérées, il faut se tourner vers les savoirs spécialisés, suggère Heidegger, dans sa rhétorique ici, n'est-ce pas ? Il faut se tourner vers les savoirs spécialisés, spécifiques, qui sont relatifs aux différentes choses. Pour savoir ce que c'est qu'une grenouille, un faucon, un soulier, un fer à cheval. On se tournera vers la minéralogie, la botanique, la zoologie, etc. Sans doute, mais quand nous posons la question « qu'est-ce qu'une chose ?», nous ne cherchons pas, précise encore Heidegger, à savoir ce que c'est qu'un granit, un silex, une pierre à chaud ou un grès, mais bien à savoir ce qu'est, par exemple, la pierre en tant que chose. Et il en va de même pour les animaux ou les végétaux. Ce qui nous importe, ce n'est pas tant de savoir comment sont et comment se différencient les mousses, les fougères, les graminées, les arbustes et les arbres, mais ce qu'est la plante en tant que chose. La question porte bien donc sur la choséité de la chose, sur cela qui « was das Ding bedingt », cela qui fait de la chose une chose, « was das Ding bedingt », cela qui fait de la chose qu'elle est, « was das Ding zum Ding bedingt », ce qui fait de la chose qu'elle est. Évidemment, dans un cours sur Kant, sur la Bedingung, les conditions de possibilité, hein, Bedingung der Möglichkeit, Heidegger joue ici sur ce was das Ding zum Ding bedingt, ce qui est la condition de la chose. Une telle question, et voilà la décision historiale qu'il importe de prendre en vue, une telle question ne saute pas par-dessus la pierre singulière, ou les différentes espèces de minéraux. Une telle question ne saute pas par-delà les différentes espèces végétales, les différentes espèces animales, les différents outils ou les divers ustensiles pour en saisir l'eidos ou le genos. La question de savoir ce qui fait d'une chose et de cette chose la chose qu'elle est, ça n'est pas du tout une question eidétique, ça n'est pas du tout une question qui renvoie à l'unité de l'eidos et au-delà de l'unité de l'eidos à l'unité générique du genos. Voilà que la jeune servante Thrace éclate à nouveau de rire, alors que nous prétendions nous préoccuper de ce qui est le plus proche, de ce qui nous entoure. Voilà que nous nous tournons, semble-t-il, vers un unbedingtes, un inconditionné, unbedingtes, censé faire de la chose qu'elle est. La question ainsi engagée, je cite, nous éloigne des choses les plus proches, nous éloigne, semble-t-il, des choses les plus proches, bien davantage encore que ce Thalès qui, lui, ne voyait pas plus loin que les étoiles. Par-delà les étoiles, par-delà toute chose, c'est vers l'inconditionné que nous visons, là-bas où il n'y a plus de choses susceptibles de fournir un sol et un fondement. Et pourtant, la critique ici de la petite servante Thrace était évidemment une critique erronée, n'est-ce pas, qui interprète cette question de ce qui fait de la chose qu'elle est, n'est-ce pas, comme une question qui vise encore au-delà du ciel et des étoiles qu'envisageait Thalès, à savoir l'inconditionné, das Unbedingte. Et pourtant, poursuit Heidegger, on retrouve exactement la même clausule, et pourtant, und dennoch, la même clausule rhétorique dans la partie de la conférence sur l'origine de l'œuvre d'art, dans la partie consacrée à la chose et l'œuvre, à la fin de l'illustration intuitive, Veranschaulichung, qui était empruntée à une toile de Van Gogh. Celle-ci nous a montré une paire de souliers et rien de plus, conclut Heidegger sa première analyse, n'est-ce pas, de la toile de Van Gogh, et il poursuivait « und dennoch » et « pourtant ». Ce qui vient en effet en question avec la question de la chose, c'est bien encore une fois le sol, le proche, la proximité. Bien plus tard, en 1949, la première conférence de Brême, intitulée « La chose », commençait par cette interrogation, j'ai anticipé ce point tout à l'heure. La conférence de Brême, intitulée « La chose », commençait par cette interrogation « Wie steht es mit der Nähe ?»« Qu'en est-il de la proximité ?» Permettez-moi de citer un peu plus longuement ce tournant dans l'introduction du cours. Je reviens à mon cours, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'une chose ? Ce tournant dans l'introduction du cours qui porte sur les différentes manières d'interroger en direction de la chose. Je cite. C'est page 21 dans la traduction française. Dans l'expérience de tous les jours, et voilà qui devrait satisfaire la petite servante Trace, dans l'expérience de tous les jours, nous tombons sans cesse sur des choses individuelles. Les choses sont individuelles. Cela veut dire tout d'abord la pierre, le lézard, le brin d'herbe, le couteau sont chacun pour soi. Cela veut dire en outre, la pierre est une pierre tout à fait déterminée, précisément celle-ci. Le lézard n'est pas le lézard en général, mais précisément celui-ci. De même le brin d'herbe et le couteau. Une chose en général, il n'y en a pas. Ein Ding überhaupt gibt es nicht. Une chose en général, il n'y en a pas. Il y a seulement des choses singulières. Et de plus, les choses singulières sont chacune, à chaque fois, cette chose-ci. Todeti. Chaque chose est cette chose-ci et aucune autre. Pas une autre. Voilà, poursuit Heidegger, que nous rencontrons à l'improviste ce qui appartient à une chose en tant que chose. Was zu einem Ding als Ding gehört. Voilà que nous rencontrons à l'improviste ce qui appartient à une chose en tant que chose. C'est une détermination dont les sciences détournent les yeux. Elles qui, dans leur passion des faits, donnent l'apparence de s'approcher au plus près des choses. Car dans son examen des labiers, un botaniste ne s'intéresse jamais à cette plante singulière que voici. Elle n'est jamais pour lui qu'un spécimen, nur ein Exemplar. Et cela vaut pour les animaux, par exemple, les innombrables grenouilles et salamandres que l'on tue dans un institut. Le « cette chose-ci » qui distingue chaque chose, la science saute par-dessus. Heidegger ajoute en effet ceci qui nous éloigne définitivement de toute considération d'une généralité essentielle, contredistinguée de la spécificité des sciences spéciales. Heidegger ajoute ceci. Et pourtant, nous posons notre question, qu'est-ce qu'une chose ? Qu'afin de savoir ce que c'est qu'une pierre, ce que c'est qu'un lézard, qui sur la pierre se chauffe au soleil. Ce que c'est qu'un brin d'herbe qui pousse à côté de la pierre. Et ce que c'est que ce couteau que nous tenons peut être en main, nous qui sommes couchés sur la prairie. C'est cela précisément que nous voudrions savoir. Quelque chose peut-être que les minéralogistes, les botanistes, les zoologistes et les couteliers ne tiennent nullement à savoir. Ce trait, c'est celui du todeti, je parlais tout à l'heure en grec, en voyant la distinction aristotélicienne, n'est-ce pas, de Lucia Protée et de Lucia Deutera dans le traité des catégories. Ce trait, c'est celui du todeti, en allemand du je, dieses. C'est celui de l'Einzelheit, constitutif de la choséité de la chose, peut-être l'écrire Einzelheit, constitutif de la choséité de la chose, de ce qui fait sa teneur de chose. Heidegger nomme cette singularité Einzelheit. Heidegger nomme cette singularité encore la Je, en allemand, même pour les noms germaniques.
À chaque fois.
Ça veut dire à chaque fois. Dieses dieses c'est le ceci. À chaque fois ceci. Dieses. Et Heidegger, on peut le faire en allemand, c'est moins violent. C'est violent, mais c'est beaucoup moins violent qu'en français. Heidegger fabrique un substantif sur le Jesus avec le suffixe Heid. Et il parle donc de Jesus Heid. Là, je ne peux pas traduire. Hein. C'est le à chaque fois ceci. Le à chaque fois ceci. Le grec le fait d'une certaine façon en substantivant avec le to, le to des ti. Le ceci que voici. La Jedisheit, c'est lié à la singularité, Einzelheit, à la singularité de la chose. Ce trait, c'est pourquoi, n'est-ce pas, dans l'exemple, on avait cette pierre, si ce lézard sur la pierre, ce brin d'herbe qui pousse à côté de la pierre, ce couteau que je tiens en main, etc., moi qui suis allongé sur la prairie. Cette dimension, la dimension de la Jedisheit, c'est ce que aucune science n'envisage. Cette Jedisheit, cet être à chaque fois ceci singulier, voilà un des éléments constitutifs de la choséité de la chose. Voilà ce qui fait la teneur de choses, la Dinghaftigkeit. Un tel mot existe, Jedisheit, en vérité. J'ai dit todeti. Un tel mot existe, c'est exeïté. Aexeitas. Aexeitas, inventé par Danskot. Aexeitas. Exeïté. On retrouve dans Leibniz. L'exeitas, l'exeïté. Ic, aec, hoc. Hein, on va faire du latin, sixième. Hein. L'exeïté, aexeitas. J'abandonne un instant les années 35-36, celles du cours « Qu'est-ce qu'une chose ?». Durant le semestre d'hiver 1936-1937, alors qu'il donne son premier cours sur Nietzsche, intitulé « La volonté de puissance comme art », aujourd'hui publié comme le tome 43 de la Gesamtausgabe. Donc pendant qu'il donne ce cours sur Nietzsche, le premier cours sur Nietzsche, Heidegger tient à l'Université de Fribourg un séminaire pour étudiants débutants. Anfänger. Un séminaire pour étudiants débutants consacré aux lettres sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller. Petite parenthèse pour les cagneux, les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller, c'est un texte absolument admirable. C'est un texte dans lequel Schiller se confronte, à partir de la troisième critique, à la seconde critique de Kant, et dont je ne saurais trop vous recommander la lecture, il en existe une traduction française chez Aubier, ancienne et rééditée. Donc Heidegger, pendant qu'il donne son cours, cette coïncidence n'est évidemment pas insignifiante, sur la volonté de puissance comme art, donne en même temps un séminaire pour étudiants débutants, c'est-à-dire les étudiants qui viennent de s'immatriculer à l'université et qui sont beaucoup moins savants que vous, consacré aux lettres sur l'éducation esthétique de l'homme. Comme il s'agit d'un séminaire, à la différence des cours, des Vorlesungen, Heidegger n'a pas, semble-t-il, rédigé de manière continue de notes préparatoires. On trouve simplement quelques fiches, et il faut donc, pour prendre connaissance de ce séminaire aujourd'hui, se reporter au protocole établi par les étudiants. l'usage allemand qui s'est perdu dans nos... Enfin, plutôt, qui ne s'est pas perdu. C'est jamais implanté dans l'université française, n'est-ce pas? C'est après chaque séminaire de demander aux étudiants d'établir un protocole qui est lu au début de la séance suivante et commenté par le professeur. Donc on doit se reporter au protocole. Ces protocoles ne sont jamais absolument fiables et on sait que Heidegger s'en méfiait. C'est sans doute ce qui justifie le fait que le petit volume qui rencontre de ce séminaire n'ait pas trouvé place dans la grande édition, la Gesamte Ausgabe, puisqu'il ne répond pas exactement aux critères qui ont présidé à l'établissement de cette grande édition, c'est-à-dire les notes préparatoires des cours rédigés par Heidegger. C'est ce qui explique donc que ce petit séminaire ait été publié à part dans une série, la Marbacher Bibliothèque, édité par Ulrich von Bülow. Parmi les auditeurs figurent pas seulement des étudiants débutants, mais également des auditeurs très fidèles de Heidegger, qui ont fourni donc la matière de ces protocoles. Figure également parmi ces auditeurs un certain Karl Ulmer, qui deviendra lui-même professeur à Tübingen, après une dissertation consacrée à la signification de la copule chez Aristote. On trouve aussi un historien de l'art, qui deviendra ami de Heidegger, Kurt Bauer. Et puis l'assistant de Bauer, un certain docteur Körte, qui a consacré un exposé dans le séminaire de Heidegger au célèbre dessin de Dürer, une aquarelle, le lièvre qui est aujourd'hui conservé à l'Albertina de Vienne. Der Asse, le lièvre, ce célèbre, très célèbre aquarelle. C'est sur ce moment du séminaire que je voudrais m'arrêter à présent. À savoir le commentaire consacré à la 22e lettre, où Schiller, d'une part, revient sur le rapport entre forme et contenu dans l'œuvre d'art, et où, d'autre part, il s'interroge sur l'état esthétique suscité en nous par la beauté de l'œuvre, ouvrant ainsi la voie à l'application de la réflexion schillerienne à des œuvres d'art, par exemple le poème de Conrad Ferdinand Meyer, La Fontaine romaine, que j'évoquais tout à l'heure. Fontaine romaine qu'on retrouve dans l'origine de l'œuvre d'art et qui est également mentionnée dans le cours sur Nietzsche, dans le contexte d'une discussion qui porte sur vérité apparente, être et apparence, être et paraître ou parution, sein und schein. La seconde œuvre examinée, c'est la très célèbre aquarelle donc de Dürer, qui date de 1502 et qui est conservée aujourd'hui à l'Albertina de Vienne. Ce lièvre, on l'aperçoit aussi en passant dans le premier cours sur Nietzsche, qui est contemporain des séminaires, dans la partie consacrée cette fois à art et vérité. Alors, je suis un instant dans le cours sur Nietzsche, avant de revenir à notre séminaire pour débutants, puisque les deux enseignements coïncident, n'est-ce pas? Et dans les deux cas, on a la référence à cette œuvre fameuse de Dürer. Dans le cours sur Nietzsche et la partie art et vérité, Heidegger vient de rappeler assez sommairement l'analyse de la mimésis dans la République de Platon. Et puis il cite brusquement et sans aucune transition Érasme, ce qui n'est pas si fréquent. Alors, je crois que vous l'avez dans le handout, hein,
Page 2.
Vous l'avez dans la vôtre. Il cite Erasme. Une phrase d'Erasme nous a été transmise, dit-il, qui cherche à caractériser l'art d'Albrecht Dürer. Cette proposition exprime une pensée qui, de toute évidence, a dû surgir dans l'esprit de l'humaniste au cours d'un entretien avec le peintre. De toute évidence, ici, est d'une violence abominable, comme si Erasme n'avait pas pu avoir tout seul cette pensée. Bon, laissons cela. Cette proposition exprime une pensée qui, de toute évidence, a dû surgir dans l'esprit de l'humaniste au cours d'un entretien avec le peintre. La voici. Ex situ rei unius, non unam speciem, cesse oculis intuentium offerentem exprimit. C'est tiré d'un dialogue de recta latini graeci quae sermonis pronunciatione. Enfin, la prononciation grec et du latin. Heidegger traduit et glose la citation. Lui, le peintre Dürer, en représentant une chose isolée, ein einzelnes Ding, nous retrouvons notre Einzelheit, en représentant une chose isolée à partir de ce qui est à chaque fois sa situation ou son site, ex situ en latin, qu'il traduit par aus seiner jeweiligen Lage, lui, le peintre, ne se borne pas à en faire apparaître, zum Vorschein bringen, un aspect singulier ou isolé, einzigen vereinzelten Anblick, unam speciem, en latin. Il ne se borne pas à en faire apparaître un aspect singulier, isolé, offert au regard, mais en s'attachant à montrer chaque fois l'objet isolé en tant que cet objet unique, res una, dans son unicité, il rend visible l'être même, la formule est inouïe, n'est-ce pas, hein ? Il rend visible l'être même dans ce lièvre singulier, il rend visible l'être lièvre, l'être animal. Je relis avec vous l'allemand, n'est-ce pas, à la fin. Macht sichtbar, il rend visible, hein, macht sichtbar, il rend visible das Sein selbst, l'être lui-même, in diesem Assen, il rend visible l'être même dans ce lièvre, dans l'être animal en général. La portée, on ne peut pas souligner davantage la portée ontologique. Du geste ici du peintre qui manifeste dans la singularité dans la singularité l'excéité la plus extrême das Sein selbst, l'être même. L'aquarelle, encore une fois, était bien connue. Et pour les auditeurs du cours sur Nietzsche. Mais enfin, le lièvre surgit de manière pour le moins inattendue dans la discussion de la mimésis platonicienne dans le cours sur Nietzsche. Et la fin du paragraphe pour les auditeurs du cours ou pour les lecteurs du Nietzsche 1 restait assez énigmatique. Que l'humaniste Erasme ait connu ce dialogue, la République et le développement consacré à l'art, il est permis de le conjecturer. Là encore, Heidegger est Charrie, n'est-ce pas, qu'Erasme et Dürer aient pu parler ainsi présuppose qu'une transformation, une mutation dans la compréhension de l'être est en cours. Transformation, mutation de la compréhension de l'être. Le lecteur du Nietzsche, que nous avons été à une époque sans pouvoir nous référer au séminaire sur lequel je vais revenir dans un instant, le lecteur du Nietzsche n'en apprenait pas davantage. Si bien que ce passage, passablement énigmatique, n'avait jamais été commenté dans le Nietzsche 2, ce passage du lièvre aussi. La citation d'Erasme tu as donné à Heidegger est vraisemblablement emprunté à l'ouvrage du célèbre historien de l'art que vous connaissez sûrement, Heinrich Wölfling, Die Kunst Albrecht Dürer, qui avait été réédité quelques années auparavant à Munich en 1920. Cette citation d'Erasme fera l'objet, beaucoup plus tard, d'une très savante étude d'Erwin Panofsky, Erasmus and the Visual Arts, publiée dans le journal of Warburg and Courtauld Institutes en 1969. Il existe au Louvre, dans le cabinet des dessins, un portrait inachevé au fusain d'Erasme par Dürer, et une gravure de 1526 consacrée au musée de Nantes, d'Erasme par Dürer. Dans son éloge de Dürer, Erasme le compare d'abord à Appel, 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est pour bien marquer ensuite la supériorité de Dürer qui tient au caractère plus réduit de ses moyens d'expression, à savoir des moyens d'expression monochromatiques. Et je cite le texte, cette fois dans son entier, d'où Heidegger avait tiré un bref passage. Là aussi, vous avez, je crois, dans le handout, en texte parallèle, la citation. Donc ça, c'est Erasme dans son éloge de Dürer. « Je reconnais que Appel était le prince de cet art auquel aucun reproche ne peut être adressé, si ce n'est qu'il ne savait pas quand il fallait s'arrêter, quand il fallait lever la main du tableau. Manum tolere de tabula. » Belle objection. Mais Appel cédait de couleurs, même peu nombreuses et moins ambitieuses qu'aujourd'hui, mais enfin de couleurs. Dürer, même s'il doit être admiré sur d'autres points, que n'exprime-t-il pas avec des monochromes, autrement dit des lignes noires ? Allusion ici aux gravures, hein ? Bien. Ombre, lumière, éclat, relief, dépression. Umbras lumen splendorem eminentias depressiones. Bien plus d'un seul objet, alors voilà la citation, bien plus d'un seul objet, il tire plus d'un aspect, spéciès, qui s'offre de lui-même au regard des spectateurs. Il observe exactement symétrie et proportion. Que n'a-t-il peint sur des supports, y compris ce qui ne peut l'être ? Feu, rayon, tonnerre, éclair, foudre, ou comme on dit, des nuages sur un mur. L'expression nebulae in parietate, n'est-ce pas, c'est une expression toute faite, c'est Panofsky qui m'apprend tout cela, hein. C'est une expression toute faite pour désigner des choses impossibles, des chimères, par exemple. Donc que n'a-t-il peint, y compris, comme on dit, des nuages sur un mur. Sentiment, toutes les affections, en un mot, toute l'âme humaine, telle qu'elle s'illumine de la tenue du corps et, pour ainsi dire, la voix elle-même. Tout cela est exposé devant nos yeux par des lignes les plus heureuses, des lignes noires, et de telle manière qu'ajouter une couleur serait faire injure à l'œuvre. N'est-il pas merveilleux, sans l'aide de couleurs, d'accomplir ce qu'Appel réussissait grâce à elle ? Demandait Erasme dans cet éloge de Dürer. Dont Heidegger avait donc extrait une petite citation. Alors, qu'est-ce que montre exactement Dürer dans cette aquarelle que vous avez sous les yeux, 25 par 22,5 cm, conservée à l'Albertina de Vienne ? Dans la diagonale de la feuille, de gauche à droite, un lièvre se tient en position ramassée sur lui-même. Nous serions tentés de dire accroupi. Sur un fond spatial blanc cassé, relativement indéterminé, et comme moucheté de petites taches plus foncées, le lièvre est présenté deux trois quarts, dans une perspective qui ressemble un peu à une contre-plongée, ce qui a pour effet de dissimuler la croupe, l'intérieur de l'oreille droite, et d'écraser un peu optiquement la partie arrière, et en particulier les pattes postérieures, dont on perçoit seulement les articulations autour du râble. L'animal regarde devant lui, au-delà de la feuille de papier, comme indifférent au spectateur. Dans l'œil gauche semble se refléter quelque chose comme une croisée de fenêtres. Alors, bon, peut-être vous ne le voyez pas sur l'écran. Pourtant, l'espace qui l'entoure demeure indéterminé, à l'exception d'une légère ombre très légèrement rendue dans la partie droite de l'aquarelle, à partir des deux pattes avant strictement parallèles. On ne sait pas où se tient l'animal ni ce qui l'entoure. Quel est son Umwelt ? Sur ce point, le contraste est très frappant avec des copies nombreuses qui ont été faites de cette œuvre, à commencer par celle d'un certain Hans Hoffmann, qui est conservé pour l'une au Palazzo Barberini, j'ai été trop vite, voilà, au Palazzo Barberini à Rome. Et pour l'autre, au Getty de Los Angeles. Je reviens à l'aquarelle de Dürer. La fourrure est particulièrement bien rendue dans une épaisseur quasi tactile, ce qui contribue à donner au dessin son extraordinaire présence et comme sa vitalité, son caractère vivant, un peu comme si l'on voyait battre les flancs de l'animal sous l'effet conjugué de la respiration et des mouvements du cœur. L'immobilité qui est la sienne paraît également riche de mouvements latents, ceux du bond et de la fuite. Ce que l'œuvre met en lumière, c'est une chose. Ici, un lièvre, comme enfermée, concentrée en elle-même, et dont on peut envisager les moindres détails pris dans leur singularité ou leur matérialité. Ce que l'aquarelle montre à même ce lièvre singulier, c'est aussi l'ensemble de l'être animal, dans le vivre qui lui est propre. Le lièvre est là, présent et lui seul. L'ici est encore souligné par l'ombre, et cependant cette monstration ne résulte d'aucun processus abstractif, comme si l'animal était privé de son monde ambiant. Celui-là même que de mauvaises copies s'efforceront de restituer, comme vous l'avez vu tout à l'heure. S'il y a bien quelque chose comme une époque, une suspension, celle-ci n'est pas destinée à suspendre quelques Weltthesis, la thèse du monde, c'est l'époque husserlienne dans les idées M1 vise à suspendre la thèse du monde. S'il y a bien donc une époque, ce n'est pas l'époque d'une Weltthesis, thèse du monde, car en effet, c'est bien le monde qui est donné avec cet espace indéterminé que le lièvre occupe obliquement. L'œuvre ici ne donne pas à voir, je reviens à la formule d'Erasme, ne donne pas à voir une espèce, pris au sein d'un genre de petits mammifères herbivores, ni un eidos, Aussehen, écrit Heidegger, quelque chose comme un aspect ou un visage qu'offrirait le lièvre en général. Non, ce que donne à voir l'aquarelle, ce serait plutôt quelque chose comme, parler comme Goethe, comme le Ur-Asse, l'archilièvre. Dans l'œuvre, ce qui se trouve exposé, c'est l'Ur-Wahrheit der Dinge, l'archivérité, la vérité originaire, archi-originaire de la chose, Ce qui se trouve montré, c'est non pas un concept, mais précisément, cette archivérité se trouve montrée non pas comme un concept abstrait, mais précisément comme une œuvre, Werk. Ce caractère d'œuvre de l'œuvre, où se trouve instituée la vérité d'une chose, ressort particulièrement si l'on confronte notre lièvre à d'autres modes d'exposition d'animaux, par exemple ceux des bestiaires du Moyen-Âge, au XIIe ou au XIIIe siècle, où les animaux se trouvent montrés le plus souvent de profil, et n'ont pas saisi pour eux-mêmes dans leur singularité de res, dans leur Dinghartigkeit, mais comme porteur de symboles ou d'allégories. L'animal n'est plus alors une chose qu'à titre de support de détermination surajoutée qui renvoie à des qualités ou à des propriétés morales. Voilà un autre exemple, n'est-ce pas, tiré d'une Bible historiale, début du XIVe. Cet autre exemple, je trouve particulièrement intéressant, tiré d'Arrêtable, 1380, création des animaux, ou encore tiré des carnets de Villard de Honnecourt, le lion, l'ours et le cygne, ceci encore tiré des carnets. On voit bien, voilà la fameuse bataille de San Romano, n'est-ce pas ? Les lièvres, de profil, un détail. On voit bien, donc, en confrontant ces images, n'est-ce pas ? On voit bien la rupture épocale, historiale, que représente aux yeux de Heidegger cette œuvre, qui fait apparaître quelque chose comme, encore une fois, l'Urwahrheit, l'archivérité, la vérité originaire de la chose comme une chose singulière mise en œuvre par l'art. L'animal n'est pas non plus, dans cette aquarelle de Dürer, un symbole, comme par exemple, alors là vous n'allez pas le voir, c'est très bien, le petit escargot en bas, à l'avant-scène de la célèbre Annonciation de Francesco del Cossa, qui est exposée à Dresde, autour de 1470-1472. Je renvoie, pour ceux que ça intéresse, je sais que ça fait plaisir à mon ami Didier, à l'analyse de Daniel Arras, le regard de l'escargot, qui figure dans le très savoureux recueil de Daniel Arras, On n'y voit rien, description. Tout se passe donc un peu comme si, quelques décennies plus tard, Albrecht Dürer prenait acte d'un tournant épocal dans l'histoire de l'être, tournant dont Heidegger lui-même n'aura pas beaucoup parlé, même si certains de ses élèves, directs ou indirects, l'auront fait, ce tournant épocal, au terme duquel l'étant, la chose singulière, n'est plus considéré comme un cas, le cas, casus, c'est la chute, comme un cas, comme la chute dans le méon sensible d'une généralité eidétique proprement étante, à savoir l'idéa ou l'eidos. C'est le statut même de la réalité, de la realitas, qui se trouve modifié. Elle n'est plus liée exclusivement à l'universel, anterem, comme on disait, en deçà d'eux et préalablement à toute singularisation, à toute Vereinzelung, à toute individuation. Non, ce qui maintenant est proprement étant, ce que manifeste par exemple le lièvre de Dürer ou la fontaine romaine de Conrad Ferdinand Mayer, c'est la res singularis, la chose singulière. Celle-ci, ici, caractérisée essentiellement par ce que l'on nomme depuis Dean Scott la exeitas, la jedisheit dans le vocabulaire de Heidegger, cette véritable révolution du mode de pensée qui se déploie de Dean Scott à Leibniz en passant par Occam mais aussi par Nicolas de Cuse, et ce qui ouvre un nouveau regard sur le monde, ou mieux sur la mondanéité du monde. Désormais, l'étang intramondain n'est plus simplement ens creatum, un étang créé dont tout l'être, l'être essentiel, tient à sa participation des idées en Dieu ou dans l'entendement divin. Mais c'est le monde créé lui-même qui se laisse appréhender, ça c'est dans Nicolas de Cuse, n'est-ce pas, qui se laisse appréhender comme une explicatio dei, une explication à la faveur de laquelle chaque étang explicité, déployé, comme on défait un pli, trouve son droit entier, sans plus être simplement le cas d'une détermination générale et essentielle. Il est, comme le dira plus tard Leibniz, miroir ou encore mundus concentratus, un monde concentré. Voilà une belle caractérisation possible du lièvre de Dürer. C'est bien encore comme préparation d'une transformation de la compréhension de l'être que le nominalisme se laisse ici concevoir, transformation de l'universel en singulier, qu'il appartient éminemment à l'œuvre d'art de mettre en scène. Si l'on revient un instant à notre lièvre, ce qui compte, ce n'est pas tellement la finesse de l'exécution, la légèreté du pinceau, qui permettrait presque de dénombrer précisément chaque poil de la moustache, voire chaque poil de la fourrure sur le râble du lièvre. Il ne s'agit pas de produire un effet de vérité par ressemblance dans l'exécution de l'aquarelle, grâce à une accumulation de détails qui aurait fait défaut dans les vagues esquisses des bestiaires médiévaux, simple support symbolique, de valeur symbolique, ou dans les grandes toiles historiques à la Paolo Uccello, non. Ce qui a radicalement changé, si l'on veut encore parler en termes d'effet, c'est l'effet de réalité ou de réalité effective, Wirklichkeit, telle qu'elle appartient désormais à l'individu singulier, telle qu'elle s'accroît et se donne dans la singularité même. Je rappelle en passant que dans la partie introductive essentielle du cycle de conférences consacré à l'origine de l'œuvre d'art, Heidegger abordait la question de l'œuvre d'art, du Kunstwerk, en soulignant le mot Werk, œuvre, à travers la question de la Wirklichkeit, de la réalité effective. La question était de savoir ce qu'est proprement un Kunstwerk, eigentlich und wirklich, Kunstwerk. Dans l'aquarelle de Dürer, nous l'avons noté, le lièvre est comme ramassé sur lui-même, concentré, et pourtant, dans cet espace vide alentour, il est aussi comme hors de soi, über sich, in aus. Même si, par ailleurs, Heidegger lui refuse catégoriquement l'existence. C'est une thèse heideggerienne, n'est-ce pas, qu'on trouve dans le volume 29-30, les concepts fondamentaux de la métaphysique que j'évoquais la semaine dernière. Das Tier existiert nicht. L'animal n'existe pas. Seul le Dasein existe. Mais si l'animal n'existe pas, il n'en est pas moins, c'est sa différence avec la chose, la pierre, il n'en est pas moins über sich hinaus. Ramassé, concentré en lui-même, et pourtant, d'une certaine façon, hors de soi, au-delà de soi. Hors de soi, il l'est sans doute d'abord par son regard tourné vers la nourriture ou un éventuel danger venu de l'extérieur, comme on dit très bien en français, de l'extérieur, c'est-à-dire du monde ambiant qui est le sien. On peut lire dans le protocole du séminaire consacré donc au texte de Schiller, qui est prétexte pour l'introduction et les discussions de cette aquarelle, on peut lire dans le protocole la jolie formule d'Astir, que je vous donne d'abord en allemand, d'Astir ist in sich, gerade dadurch, dass über sich hinaus ist. Je relis. D'Astir ist in sich, gerade dadurch, dass über sich hinaus ist. C'est de l'allemand pas très difficile. L'allemand est, pardon l'allemand, l'animal, d'Astir, l'animal est précisément en soi, in sich, c'est ça qui constitue son être en soi, hein, gerade dadurch, das, précisément par ceci que ist, il est über sich hinaus, hors de soi. On aimerait pouvoir dire transitif. Son être est transitif. Même si le monde ambiant est limité, pauvre, l'animal est pauvre en monde, autre thèse heideggerienne, même si le monde ambiant est limité, pauvre, il est d'emblée présent en cette mise en lumière du lièvre, sans qu'il soit nécessaire de dessiner un champ, des sillons, de l'herbe, etc., comme aurait très bien pu le faire en y associant, par exemple, la fameuse grande touffe d'herbe qui est également à l'Albertina de Vienne. Oui. Bon, autre aquarelle absolument magnifique. Il n'était pas nécessaire donc à Dürer, n'est-ce pas, d'entourer son lièvre de quelque chose, par exemple, comme la grande touffe d'herbe, n'est-ce pas, pour manifester qu'il a un monde, même si ce monde est, encore une fois, limité et pauvre. La singularité de la res, le lièvre, la singularité de la res, ici mise en présence, ne tient donc pas à son caractère isolé, ça n'est qu'un lièvre, c'est seulement un lièvre, mais bien plutôt à ceci que la dite res singularis est présente au sens du se tenir en soi-même, au sens fort de l'eigenständigkeit, de l'indépendance propre à ce qui repose en soi-même. Voilà un autre trait de la Dinghaftigkeit, hein, l'Eigenständigkeit, ce qui se tient en soi-même, ce qui repose en soi-même, dans son indépendance propre. Ce lièvre-ci est donc tout sauf un lièvre qui viendrait illustrer ou exemplifier une essence, quelque chose comme le lièvre générique dont il constituerait un cas particulier, comme on dit. Non, c'est par là justement qu'il est pleinement une chose, digne. Ce lièvre-ci individué, singulier, est en même temps son essence. Il est, parce qu'il est ce lièvre-ci, il est l'être lièvre. Il appartient à la chose elle-même, quand elle est authentiquement res singularis, d'apparaître avec, de co-apparaître avec son essence pleine et entière. En termes leibnitziens, qui ne sont certainement pas ceux de Heidegger, seul le singulier est proprement existant, au sens où l'existentia est elle-même perfectio possibilitatis. L'existentia est perfectio possibilitatis. En allemand, cette fois, ça c'est du Heidegger, Das Wesen West wird erst als Wesen vollkommen, als Einzelnes dieses. Le Wesen, alors c'est difficile ici, parce que Wesen en allemand, comme vous savez, ça peut vouloir dire essence, mais ça peut vouloir dire aussi l'être, hein, au sens où on parle du Gotteswesen, l'être divin. Hein. Enfin, l'être, le Wesen, West se déploie et déploie son essence, erst seulement, il devient seulement achevé comme Wesen, comme être, en tant qu'il est, als Einzelnes dieses, en tant qu'il est un une res singularis, hein, un ceci singulier que voici. Das Wesen West, je ramasse la formule pour qu'elle soit plus facile, si l'on veut, à comprendre. Das Wesen West als Einzelnes, dieses. L'essence se déploie comme essence, pour autant qu'elle est un ceci singulier. La formule, car tel était le point d'accroche dans le séminaire consacré à Schiller, 22e lettre, renvoie à l'analyse par Schiller de la notion de forme. La forme, où se reconnaît la maîtrise du grand artiste, dont tout le secret consiste, dit Schiller, à détruire la matière, Stoff, par la forme. Dans une œuvre d'art vraiment belle, c'est du Schiller, le contenu doit compter pour rien, tandis que la forme y fera tout, disait Schiller. Mais cette forme, il faut bien la comprendre comme une forme déconnectée de l'eidos, on va dire platonicien, n'est-ce pas ? Cette forme doit s'entendre comme celle de la singularitas. La forme, ou la formule, hein, formule, petite forme, hein, la formule qui donne la singularitas. Si Dürer a ainsi dessiné et colorié ce lièvre-ci, c'est qu'il a vu, souligne le protocole, l'étang à neuf, en suivant une révolution, une Umdrehung de l'être lui-même. Je cite ici un instant le protocole, j'espère que vous avez ceci dans le handout. C'est seulement à présent que le ceci et le ici, hein, on l'a, hein, c'est seulement à présent que le ceci et le ici, hoc ibi, se trouvent d'une certaine manière pris au sérieux en eux-mêmes, en tant que détermination ontologique. C'est seulement à présent qu'ils sont éprouvés proprement comme Zayent. Le Zayent, il faut le prendre comme un gérondif ici. Comme étant, mais en français on n'y arrive pas. C'est à présent que, pour la première fois, et proprement, l'espace est découvert comme espace, tandis qu'auparavant, le lieu, le topos d'une chose, appartenait à la chose elle-même. Aristote, physique. C'est à présent là où l'étang en tant que ceci, hoc, devient être proprement, à présent seulement qu'il y a pour la première fois proximité et distance en tant que détermination de l'être même. Avec l'œuvre d'art, proximité et distance deviennent détermination de l'être même. J'ai presque fini. Dans sa dissertation de 1915 consacrée à Dean Scott, la doctrine des catégories et la doctrine de la signification, Heidegger avait été tout particulièrement attentif à la nouveauté de la notion scottiste de l'exeitas. À propos de la notion scottiste de l'exeitas, pour ceux d'entre vous que ça intéresse et qui ont le temps, je sais que vous avez beaucoup de temps, surtout en ce moment, je vous renvoie au magnifique ouvrage de Gilson, n'est-ce pas, à son Dean Scott, qui doit faire dans les 530 pages. Bon. Donc, Heidegger avait été tout particulièrement attentif à la nouveauté scottiste de la notion de l'exeitas, notamment dans le commentaire que Dean Scott proposait d'un passage des Seconds analytiques d'Aristote, livre 2, question 4, 329b, je crois aussi que vous avez le texte, intelligendum est, quod esse existere, hein, vous l'avez, non consequitur essentiam primo, sed primo consequitur individuum, non vous ne l'avez pas, individuum enim per se et primo existit, existentia non nisi per accidens. Je vous traduis, hein, c'est très, très court. Intelligendum est, il faut comprendre en effet que, quod esse existere, alors c'est à prendre en un bloc, hein, l'être, qu'il existait, l'être comme existait, non consequitur essentiam primo, n'est pas primairement, en premier lieu, une conséquence de l'essence, cet primo consequitur individuum, mais qu'il est en premier lieu, n'est-ce pas, ce qui fait suite à une conséquence de l'individu, individuum. Individuum enim per se et primo, en effet, c'est l'individu par soi et en premier lieu qui existe, existit, essentia non nisi per accidens. Mais, variable, n'est-ce pas ? L'essence elle-même n'existe pas si ce n'est par accident. Alors, cette formule, donc, existerait, qu'on trouve chez Dean Scott, fait l'objet d'un grand débat à la fin du XIIIe et au début du XIVe entre Dean Scott et Henri de Gand, toute la question étant de savoir, n'est-ce pas, si on peut opposer, comme le fait Scott ici, un essai existerait à un essai essentié, l'être de l'essence. Et ici, Scott prend évidemment le parti de l'essai existerait. Heidegger commente en ces termes dans son Dean Scott, ça vous l'avez, voilà. C'est ainsi que Dean Scott formule avec toute la précision souhaitable, à propos d'un problème fort débattu à l'époque, une pensée dont la portée est considérable. Alors c'est intéressant pour moi, n'est-ce pas, parce qu'on est ici en 1915, et disons 20 ans plus tard, un peu plus de 20 ans plus tard, dans le petit séminaire consacré à Schiller, avec l'exemple de Dürer, on a cette continuité, par ailleurs inapparente dans le corpus heideggerien, n'est-ce pas, de la réflexion sur l'excéité, qui tient, qui peut être mise en lumière si on prend, comme j'ai tenté de le faire aujourd'hui, n'est-ce pas, le fil conducteur de la chose et de la choséité, la structure chosique. Donc c'est ainsi que Dean Scott formule avec toute la précision souhaitable à propos d'un problème fort débattu à son époque, une pensée dont la portée est considérable. Ce qui existe réellement, c'est un individuel. Avec ce concept d'individuel, il ne s'agit pas d'un objet indéterminé, d'une espèce déterminée. L'être individuel ne se confond pas avec, ne coïncide pas avec, très belle formule là, « das überhaupt ein Gegenstand sein ». Ne se confond pas avec l'être un objet en général. L'être un objet en général. Il ne faut donc pas croire qu'avec l'unum transcendens, par quoi un objet se distingue d'un autre, hein, l'un fait partie des transcendentaux, hein, des catégories, de ces déterminations qui vont au-delà des catégories, ens, unum, verum, bonum, pulcrum. Hein. Donc l'un, il ne faut pas croire que l'individu est un au sens de l'un transcendant, par quoi un objet se distingue d'un autre. Le concept de l'individuel, il ne faut pas croire que le concept de l'individuel se trouverait épuisé par cette unité transcendantale. Individuum signifie bien plutôt une déterminité en tant que cette déterminité singulière, unique en son genre, une déterminité telle qu'on ne la rencontre jamais et nulle part ailleurs, et telle qu'il y aurait contradiction à la décomposer par analyse en moments qualitatifs autonomes. Das Individuel ist ein unzurückführbares letztes. L'individuel est un ultime, une instance ultime, qu'on ne peut ramener à rien d'autre. Il signifie, alors cet extraordinaire mélange de latin, d'allemand et de grec, qui caractérise la dissertation, il signifie « den realen Gegenstand catexocen prout includit existentia et tempus ». Il signifie l'objet réel par excellence pour autant qu'il implique existence et temps. Deux pommes sur le même arbre n'ont pas le même, ne sont jamais tournées identiquement vers le ciel. Tout ce qui existe réellement, comme une res, est un ici, maintenant, tel, ein solches jetzt, hier, en allemand, vous l'avez sous les yeux. La forme de l'individualité, l'exeitas, est destinée à fournir une archidéterminité de la réalité effective. Cette réalité effective, Wirklichkeit, forme une unübersehbare Mannigfaltigkeit, une multiplicité qu'on ne peut jamais dominer ou surplomber du regard. C'est un continuum hétérogène. Parmi les très nombreuses références à Scott fournies par Heidegger à l'appui de cette thèse relative à l'individuation par l'excéité, conçue comme forme dernière, hein, je me borne à renvoyer à ce bref passage tiré d'un commentaire de ce qu'on appelle l'opus oxoniense, c'est le commentaire des sentences de Dean Scott, autrement dit l'ordinatio. Expono quid intelligo per individuationem, non quidem unitatem indeterminatam, sed unitatem signatam, ut est haec determinata. Je m'explique sur ce que j'entends par l'individuation, non pas simplement une unité indéterminée, mais une unité, alors c'est difficile à traduire, une unité signée, unita signata, une unité signée comme celle-ci, ut est haec determinata, comme les celle-ci singulière déterminée. Cette thématique note-t-elle déjà le jeune Heidegger en 1915, qui fait toute la modernité de Dean Scott. Il a gagné une proximité beaucoup plus grande par rapport à la vie réelle, à sa multiplicité, à ses possibilités de tension que toute la scolastique qui l'a précédée. Je voudrais pour conclure proposer un rapprochement qui peut sembler tout à fait inattendu ou même incongru, mais qui m'est suggéré par cette référence à Dean Scott et à ce véritable tournant dans la compréhension ou dans l'histoire de l'être que marque le terme d'exeitas. Je voudrais en effet, au risque d'un télescopage, rapprocher cette analyse de la monstration par l'œuvre comme œuvre d'art, d'une chose dans sa choséité singulière, cette analyse de la chose dans son paraître, scheinen ou son shine. On pourrait poursuivre les illustrations empruntées à Heidegger. Je voudrais donc rapprocher cette analyse de la chose prise en vue dans sa choséité de ce que Joyce nommait dans un admirable passage de Stephen le héros, ouvrage dont je vous recommande la lecture ou la relecture. Stephen le héros, c'est la version préliminaire du portrait de l'artiste en jeune homme que Joyce rédige à Dublin et puis au moment où il quitte Dublin à Trieste et à Pola. Ce passage donc de Stephen le héros, qu'on trouve dans la Pléiade, page 512, et qui concerne ce que Joyce nommait épiphanie. Avec cette différence près, qui est importante, que dans l'illustration proposée par Joyce n'intervient pas la médiation d'une œuvre, encore que l'épiphanie joycienne est dans une œuvre, à savoir Stephen le héros, ou dans le portrait de l'artiste, on en trouve d'autres. Voilà le passage. Par épiphanie, Stephen entendait, note Joyce, une soudaine manifestation spirituelle. Et voilà le bref dialogue avec son ami Candy qui explicite le terme. Les deux compagnons à Dublin se trouvent devant une chose ordinaire, de peu de considération, la balance sur le port, surnommée d'une horloge. Oui, dit Stephen, que de fois je passe devant. J'y fais allusion, j'en parle. Je l'aperçois d'un coup d'œil. Ce n'est qu'un article dans le catalogue dans le catalogue mobilier des rues de Dublin. Puis un beau jour, je le regarde et je vois aussitôt ce que c'est. Épiphanie. Quoi ? Demande Candy. Représente-toi mes regards sur cette horloge, comme des tâtonnements d'un œil spirituel cherchant à accommoder sa vision sur un foyer précis. À l'instant où le foyer est atteint, l'objet est épiphanisé. C'est exactement dans cette épiphanie que je trouve la troisième qualité, la qualité suprême du beau. Alors la référence ici va à une discussion un peu antérieure dans le roman de la définition thomasienne de la beauté par Thomas d'Aquin, n'est-ce pas ? Tu sais ce que dit Thomas d'Aquin, la beauté requiert trois choses, intégrité, symétrie, rayonnement, integritas, consonantia ou conveniencia, claritas. Donc, cette, c'est exactement dans cette épiphanie que je trouve la troisième qualité, la qualité suprême du beau, la claritas. J'ai mis longtemps à comprendre ce que Thomas d'Aquin voulait dire, poursuit Stéphane. Il emploie, chose plutôt rare de sa part, un mot au sens figuré, mais j'ai déchiffré l'expression. Claritas, c'est quiditas. Après l'analyse qui dévoile la deuxième qualité, l'esprit établit la synthèse logiquement possible et découvre la troisième qualité. Integritas conveniencia, claritas quiditas. L'esprit établit la synthèse logiquement possible et découvre la troisième qualité. C'est là l'instant que j'appelle épiphanie. Nous reconnaissons d'abord que l'objet est une chose intégrale. Nous reconnaissons ensuite qu'il présente une structure composite et organisée, qu'il est effectivement une chose, soulignée. Enfin, lorsque les rapports entre ces parties sont bien établis, lorsque les détails sont conformes à l'intention particulière, nous reconnaissons que cet objet est la chose qu'il est. Son âme, sa quidité, se dégage d'un bond devant nous du vêtement de son apparence. L'âme de l'objet le plus commun, dont la structure est alors mise au point, prend un rayonnement à nos yeux. L'objet accomplit son épiphanie. L'objet accomplit son épiphanie. Voilà la rencontre insolite, si l'on veut, de Joyce et de Heidegger sur la dimension, c'est pas un terme heideggerien, hein, sur la dimension épiphanique de l'œuvre d'art qui fait apparaître la quidité, mais cette fois non pas au sens de la quidité, l'essence générale, hein, la quidité comme la chose même. Je vous remercie.
Bien, merci Jean-François. Donc tu n'as pas abusé de l'allemand, mais maintenant du latin. On va peut-être venir une troisième fois pour que je parle français. Évidemment, Joyce n'avait pas lu Heidegger, et surtout pas quand il écrivait son roman. Peut-être auriez-vous des questions à poser, des précisions, tout simplement, sur les keitas, la quiditas, sur le fil directeur de l'exposé de Jean-François. N'ayez pas peur, oui.
N'ayez pas peur.
Vous n'avez pas peur.
Oui, je vous remercie de votre exposé. Alors, moi, j'ai deux questions à vous poser. La première, qui est peut-être extra-philosophique, pourquoi Heidegger donne-t-il comme exemple de la choséité plutôt Van Gogh, les souliers et la pipe? Pourquoi fait-il l'impasse sur la longue tradition de la nature morte, qui apparaît comme, au contraire, je dirais, par excellence dans le domaine de la peinture, la manière la plus évidente et la plus représentée de précisément rendre présentes les choses individuelles? Donc c'est une première remarque qui est, plus qui concerne la pertinence des exemples picturaux donnés par Heidegger. Ma deuxième remarque ou question concerne votre traduction du terme Einzelheit, et en particulier le recours que vous avez au terme singulier comme équivalent au mot individuel. Il me semble que le singulier n'est pas la même chose que l'individuel, et que, disons, ce qui fait la singularité d'un objet, c'est qu'il a des prédicats ou des qualités qui véritablement s'ajoutent au genre qu'il représente et lui sont extérieurs. L'exemple du lièvre, on l'a plus sous les yeux. Le lièvre de Dürer comportait des éléments de représentation qui pouvaient introduire de la singularité. Le plus important, les deux plus importants me paraissent l'ombre, parce qu'elle inscrit, l'ombre n'est pas une qualité générique du lièvre, bien entendu, elle s'ajoute à ce lièvre individuel, elle l'inscrit dans un espace par rapport à une source lumineuse. Et le deuxième, que vous n'avez pas mentionné, me paraît être la tache blanche sur la droite du lièvre, qui n'est pas un trait de l'espèce non plus. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de singularité au sens strict à propos de cet animal. On pourrait peut-être ajouter la difformité des oreilles, puisque la difformité ou la monstruosité, c'est quelque chose qui éloigne l'individu précisément d'un certain type générique. Alors moi, j'ai un problème avec le terme de Heidegger ou la formulation de Heidegger qui est juste au-dessus.
Oui.
Quand il parle précisément de Hasensein et de Tiersein, parce que ça suppose plutôt que, disons, la singularité de ce lièvre précis, l'être lièvre en général, l'être animal en général. Et il y a ici un problème, puisque c'est une formulation qui est générique, là, et qui, disons, passe à côté précisément de ce que vous avez appelé la singularité du lièvre. Est-ce que ça suppose pas, mais vous avez plus ou moins déjà répondu à la question, qu'il y aurait un être là de l'animal, et que, en fait, le tableau de Dürer, d'une certaine façon, nous montrerait quelque chose comme l'être là de l'animal, c'est-à-dire une sorte d'insertion précisément à un espace qui est le sien. Bon, dernière remarque, il me semble que la peinture, pour véritablement montrer le singulier, doit plutôt se détacher du monde des choses. Et je suis tenté de penser que précisément l'impressionnisme, par exemple, qui est peut-être la première forme de peinture à avoir rompu avec le monde des choses, à les avoir complètement fluidifiées, et la première peinture de la singularité. Et que, disons, lorsque les peintres ont montré le singulier, d'une certaine façon, ils ont toujours préfiguré cette rupture.
Merci. Alors, je vais essayer de répondre. Je vous remercie de votre question qui permet de préciser bien des choses. Pourquoi est-ce que Heidegger ne prend pas en vue de nature morte? Évidemment, j'ai pas la réponse. La nature morte, en allemand, c'est Stillleben. Donc, il n'y a pas du tout la mort. Hein, c'est Stillleben. Je ne sais pas pourquoi, évidemment. Pas de réponse. Ce que je veux dire simplement, c'est que les souliers de Van Gogh, les souliers de Van Gogh dans l'origine de l'œuvre d'art, n'est-ce pas, Heidegger ne les prend pas en vue comme une œuvre d'art. Il les prend en vue, hein, il les prend en vue comme une Veranschaulichung. Ça veut dire, exact, c'est un terme très technique dans le néo-kantisme et chez Husserl. On trouve ça encore chez Cassirer, hein. C'est une illustration intuitive. Hein, Heidegger dit, on va prendre, parce qu'il s'interroge sur ce que c'est qu'une chose produite, un produit, hein, un Zeug, et il dit, prenons par exemple des chaussures. Hein, et à titre d'illustration intuitive, il dit, par exemple, hein, le tableau de Van Gogh, etc. Ce qui fait que quand Meyer Shapiro lui dit « Mais vous faites allusion à quel tableau, monsieur Heidegger ?» Heidegger est bien embêté pour répondre, n'est-ce pas ? Puisqu'il n'a pas, dans l'économie, hein, je rappelle ça, c'est très important, ce contresens habituel dans la lecture de l'origine de l'œuvre d'art, hein, Heidegger ne prend pas, c'est dans la partie qui concerne la chose et le produit, hein, qu'intervient la toile de Van Gogh, et elle n'est pas du tout prise comme illustration d'un Kunstwerk. Ce qui viendra comme illustration d'un Kunstwerk, c'est le temple. Hein, c'est le temple. Ah non, mais bon. Donc, temple grec. Donc, petite précision à propos des chaussures. Mais là, il s'agit effectivement, dans l'exemple que je donnais, d'un autre tableau de Van Gogh avec une chaise et la pipe, qui n'est pas tout à fait une nature morte, mais pas non plus un tableau de paysage. Hein. Bon, mais alors, sur cette question, c'est secondaire, je crois, hein, savoir pourquoi Heidegger prend en vue ou non ceci plutôt que cela. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand le vieil Heidegger, bon, revient sur la question de l'art, il le fait à plusieurs reprises, hein, c'est généralement à propos de la sculpture. Et c'est-à-dire que ce qui l'intéresse ici, c'est aussi de renouer la question de l'art et de la spatialité. Hein, il y a le fameux texte « Kunst und Raum », art et espace, où à nouveau on n'a pas affaire à une analyse d'une œuvre singulière, mais d'une réflexion plus générale sur le type d'ouverture de la spatialité qui est propre à l'œuvre d'art et ici à la sculpture, mais ça pourrait ne pas être une sculpture. Bon, ça c'est pour la première question, hein, sur laquelle, enfin, qui est pas la plus importante, sur laquelle j'ai pas de réponse véritablement. L'essence de l'art, pour dire, c'est la Dichtung. Il le dit évidemment à plusieurs reprises. C'est la Dichtung. Alors la Dichtung, c'est la poésie, mais c'est plus que la poésie, n'est-ce pas? C'est la dimension poétique qui apparaît le plus clairement dans les Gedicht, dans les poèmes. Mais c'est cette dimension de Dichtung qui est celle qui l'intéresse. Je crois que peut-être davantage encore que la dimension picturale, si on veut faire une distinction avec un auteur comme Merleau-Ponty et Heidegger. Merleau-Ponty, en revanche, n'est-ce pas, sera évidemment beaucoup plus attentif à la dimension picturale et moins littéraire, encore que à peine ai-je dit ça, il faut le corriger, n'est-ce pas? Bon, avec Proust, avec Valéry, avec Claude Simon, etc. Bon. Alors, je viens à votre seconde question, que j'ai bien entendue, c'est la fin, bon, qui m'a un effet de micro. La seconde question, c'est celle-là, celle de la possibilité d'entendre de manière équivalente individu, individualité, singulier, singularité. Je suis absolument d'accord avec vous qu'il faut faire des différences et que la tradition fait des différences entre l'individu et le singulier. Ce qui est remarquable, c'est qu'Heidegger ne le fait pas, très sciemment, ici, n'est-ce pas? Et des Ein und Zeit. Mais Heidegger ne le fait pas et l'allemand ne le fait pas non plus tout à fait. Hein, voilà. L'allemand ne le fait pas non plus tout à fait. C'est-à-dire que individualität, en allemand, c'est ce qu'on appelle un Fremdwort. Hein, c'est un mot latin importé. L'allemand dit Vereinzelung. Par exemple, et dans Ein und Zeit, vous souvenez, vous lirez un jour, n'est-ce pas, les analyses qui sont consacrées à l'être en rapport à la mort, où Heidegger dit que c'est cet être en rapport à la mort. qui isole l'être là et qui vient signer ultimement, dit-il, sa Vereinzelung. Alors c'est son isolement, son essolement et son individuation. Si on osait une formule, n'est-ce pas, le principe d'individuation, j'allais dire, ça serait la mortalité et le fait que la mort est à chaque fois mienne. C'est la mienneté de la mort qui serait l'ultime principe d'individuation. Donc, à dire, fait pas véritablement de différence entre comme le fait pas non plus tout à fait l'allemand, entre Einzelheit et individualität. Alors, dans le passage que j'ai cité, qui encore une fois, et que Heidegger traduit et commente à sa façon, parce que ça c'est pas dans le texte évidemment, d'Erasme, il s'agit pas du tout d'opposer, n'est-ce pas, la singularité de ce lièvre-ci à la généralité de l'être lièvre ou à la généralité de l'être animal. C'est exactement ce que Heidegger veut éviter. Ce que Heidegger veut dire, c'est que nous n'accédons à l'être lièvre ou nous n'accédons au Tierzahn, à l'être animal, que à travers ce lièvre singulier que Dürer ou un autre artiste est à même de nous manifester. Et s'il n'y avait pas Dürer, on pourrait aussi accéder naturellement à ce lièvre singulier, n'est-ce pas, comme le fait Stephen avec l'horloge du lest à Dublin. Donc ce que Heidegger entend faire, si vous voulez, c'est l'opposition aristotélicienne, au fond, ou si Protée ou si Deutera, si je peux parler ainsi, ou si Protée ou si Deutera, voilà. Il n'y a pas de possibilité de distinguer une oussia protée et une oussia de terrain, c'est-à-dire une essence prise dans sa généralité, hein, la caballéité, et puis le todéti de ce cheval-ci. La caballéité, elle naît lisible, visible, elle ne surgit que dans ce cheval-ci, de même que das Assensein, l'être lièvre, ne surgit que dans ce dieses einzelne Assen, ou dieser einzelne Assen. Et l'être animal, c'est pareil. C'est votre chat qui vous manifeste ce que c'est que l'être chat, et pas... Vous pouvez feuilleter des catalogues, n'est-ce pas, ça existe, hein, de chats, et pour en tirer des traits spécifiques, des traits généraux, etc., et essayer d'appréhender ce que c'est que là, comment il faudrait dire là, pour les chats, en plus il y a un mot, mais bon, ce que c'est que l'être chat, vous n'y arriverez pas.
Félinité, hein, je sais pas, hein,
ça, vous n'y arriverez pas. Donc, Heidegger entend bien remettre en question cette opposition qui est structurelle du projet métaphysique platonico-aristotélicien. Hein. Alors. Excusez-moi, c'est à partir de là que je n'ai pas bien entendu la fin, parce qu'il y avait un dernier volet de votre question.
Je me demande si une peinture de l'individuel ne doit pas tout simplement rompre avec le monde des choses.
Oui.
C'est tout. Et si, en fait, l'impressionnisme n'a pas réalisé ce saut.
Ça m'intéresse... Évidemment, ça m'intéresse beaucoup, votre question. On ne peut pas dire que l'impressionnisme est rompu avec le monde des choses. Hein, à proprement parler. Oui, oui. Et qu'il est rompu avec le monde des choses à proprement parler. Mais ce que l'impressionnisme réhabilite, l'impressionnisme réhabilite, c'est un nouveau... une nouvelle entente, une nouvelle acception, si on peut dire, hein, du terme impression, impression sensible, qui est entendu non plus du tout, n'est-ce pas, comme quelque chose comme un donné, au sens qu'ancien du terme, n'est-ce pas, hein, comme un donné, une étoffe, stoff, comme un donné qui est mis en forme, structuré par des concepts ou par des catégories. L'impression sensible, ici, est porteuse de figures, de gestalt, si on veut, et d'intelligibilité. Hein? Il y a une intelligibilité propre qui se donne à même le sensible. Un auteur comme Merleau-Ponty, que j'évoquais tout à l'heure, aura été particulièrement sensible à cette dimension-là de l'impression et de la nouvelle acception qu'il faut donner à sensation-impression. Heidegger méconnaît cela. Je vous l'accorde. Pourquoi ? Je pense qu'Heidegger est trop engagé dans sa critique de la tradition philosophique allemande, kantienne et post-kantienne, ça va jusqu'au néo-kantisme et ça va jusqu'à Husserl, n'est-ce pas ? Où on raisonne, alors dans le cas de Husserl, il y a quelque chose comme des données illéthiques, hein, il y a une irréductibilité des données illéthiques, et puis ces données illéthiques, elles sont aufgefasst, elles sont prises, appréhendées, n'est-ce pas ? Et cette appréhension est le principe de leur signification, de leur Deutung. Bon, ce schéma, Heidegger entend le renverser. Et entendant renverser le schéma, il évacue, si je puis dire, une autre possibilité de redonner un sens fort, prégnant, à l'Empfindung, en allemand, à l'impression, à la sensibilité, à la sensibilité, ce que par exemple un auteur comme Lévinas, aura fait à sa façon, c'est-à-dire réinterroger de manière non empiriste, réinterroger le sensible et la dimension impressionnelle. Heidegger le fait pas. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait quant à l'idée de la monstration et de l'épiphanie? Je sais pas. Ah, il faudrait creuser ce point. Mais je vous remercie.
Est-ce qu'il y a...
Il y a une demoiselle qui veut poser une question.
Je vais essayer de faire vite. J'ai deux questions.
Oui.
La première sur l'épiphanie chez James Joyce. Est-ce qu'on peut y voir éventuellement un parallèle avec l'épiphanie lévinassienne, justement? Et la seconde, c'est... Alors, ma question n'est pas très précise parce que malheureusement, je n'ai pas le texte de l'origine de l'œuvre d'art avec moi. Mmh. Mais il y a un passage que je n'ai jamais vraiment réussi à comprendre pendant l'étude. Heidegger cite Hölderlin et il dit « près de ce qui cite le point ». Il parle du point et je ne comprends pas. C'est vers la fin, dans la partie qui parle du poème. Je ne comprends pas cette idée de point.
Alors, je ne vois pas le passage auquel vous faites allusion. S'agissant de l'épiphanie joycienne et lévinassienne, aucun rapport. Non, mais attendez. Pourquoi? Parce que il y a plein d'épiphanies. Il y a plusieurs épiphanies dans Joyce, dans Stephen, et puis dans le portrait de l'artiste. Et ces épiphanies sont blasphématoires. Il y a une dimension blasphématoire. Alors pas avec l'horloge du lest, mais avec la jeune fille sur la grève, par exemple, qui est liée à la villanelle de la tentatrice, qui est un petit poème et une petite chanson que se fabrique Stephen. La tentatrice, c'est Emma, la jeune fille qu'il convoite, mais c'est aussi la Vierge. Et à propos d'épiphanie, Joyce dit aussi « mes eucharisties ». Alors là, bon. Donc, il y a une véritable dimension blasphématoire, assumée comme telle, chez Joyce, qui est déjà, évidemment, qui sort des collèges du jésuite, et qui n'en finira pas de régler son compte avec les bons pères. Donc, il y a une dimension blasphématoire qui est tout à fait passionnante, qui interdit, me semble-t-il, des rapprochements avec Lévinas ou avec des acceptions, disons, plus pieuses, de l'épiphanie. L'Eucharist, voilà, le fait qu'il puisse dire parfois que mes épiphanies, c'est mon Eucharistie. Bon, on a là aussi, n'est-ce pas, un élément très, très important et très intéressant pour comprendre ce que c'est que l'épiphanie joycienne. L'Eucharistie, c'est hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum. Et dans chaque hostie, on retrouve l'individuation, n'est-ce pas, et l'affaire Einzelung. Dans chaque hostie, vous avez le corps du Christ. Chaque hostie, c'est le corps du Christ. Et c'est pas vous n'avez pas un morceau, etc., n'est-ce pas? Vous avez la totalité. Bon, voilà pour la première question. Ça vous a laissé le temps de retrouver le passage, non? Dites-moi. Le point. Ah oui. Je sais pas. Alors là, je suis vraiment. Il faudrait. Non, puis j'ai pas mon ordinateur.
Tu voudrais l'allemand, c'est ça?
Oui, parce que là, je sais. C'est une citation donc de Die Wanderung, d'un poème de Hölderlin, Die Wanderung. Bon, je lis pour vos camarades. Sommes-nous dans notre être là, historialement à la source? Savons-nous, c'est la fin. de l'Ursprung qui porte sur la question de l'origine, de la source. Hein. Savons-nous, c'est-à-dire respectons-nous l'essence de l'Ursprung, de l'origine, ou bien dans notre attitude envers l'art, ne nous réclamons-nous plus que de connaissances érudites de choses passées? Pour cette alternative et sa résolution, il est un signe qui ne trompe pas. Hölderlin, le poète de l'œuvre dont il reste encore aux Allemands à s'acquitter, nous l'a nommé lorsqu'il dit « Difficilement, il quitte ce qui, près de l'origine, a cite le point. » Il y a « punkt ». Alors, merci beaucoup. Ah ben oui, parce voilà, merci. C'est parce que merci. Et, non, mais c'est une démonstration. Voilà, c'est la démonstration.
Ne dis pas de mal de tes camarades.
De la démonstration de ce que cette traduction est un scandale absolu et qu'elle n'aurait jamais dû être rééditée. Le texte. Évidemment, on ne pouvait pas comprendre, mais personne ne comprend à lire la traduction. Le texte allemand dit que quitte difficilement ce qui est près de l'origine, le lieu, Ort. Le lieu, ce n'est pas le point. Bon, c'est une réflexion, c'est la réflexion heideggerienne sur le lieu, Ort. D'accord ? Il ne s'agit pas de point. Hein, donc c'est der Ort et donc dans l'œuvre de Heidegger il y a une longue réflexion, n'est-ce pas, sur le sol qui ne renvoie pas à l'idéologie sauf
Falkisch.
Dans les années sinistres 33-34 du recteur qui ne renvoie pas au vocabulaire de l'idéologie nationale-socialiste Boden. De la même façon, il y a une longue réflexion qui court dans l'œuvre de Heidegger sur le lieu, la localité, Ort, Ortschaft, qui ne signifie pas qu'il faut être dans son coin, chacun chez soi, etc. Bon, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que le lieu voilà. Donc, dans le cas présent, effectivement. Pourquoi est-ce que les traducteurs, en plus la traduction a été dite, revue et corrigée par Fédier et Beaufray, ont imaginé de transformer notre Ort en point? Je suis évidemment incapable de vous le dire, mais je comprends que vous ne puissiez pas, enfin que vous ayez des difficultés. Si on veut lire Heidegger et qu'on ne connaît pas l'allemand, on peut se reporter aux traductions italiennes.
C'est un punctum caecum, un point aveugle, si je puis me permettre ce très mauvais jeu de mots. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, alors, prenez le micro.
J'aurais deux questions. D'abord, quand même, par rapport à Aristote, enfin celui des catégories, l'oustia protée, c'est quand même le todéti, hein, si oui. Je ne me trompe. La deutera oustia.
Oui, vous avez raison.
C'est quand même, donc, est-ce qu'il y a une pareille opposition? J'en suis pas quand même tout à fait certain. Puis, ça serait ma première question.
Oui, vous avez raison.
Je peux poser la deuxième d'affilée. Et à la deuxième question. Heidegger, qui connaît si bien le grec et qui, donc, est-ce qu'une chose fait la différence entre pragmata, qui désigne les affaires avec les autres hommes dans la cité, et crémata, qui signifie les choses d'usage, comme il le dit dans...
Éventuellement les richesses, oui.
Oui. Comment se fait-il que, dans Être et Temps, il avance pragmata, c'est-à-dire donc les affaires humaines, alors que tout le contexte est le tsoï, et l'outil, et l'atelier. Je me suis toujours demandé pourquoi et qu'est-ce qui s'était passé entre les deux et qui fasse qu'il soit revenu à une intelligibilité tout à fait normale et ordinaire de la langue grecque. Voilà mes deux questions.
Alors, bon, vous avez... Merci pour le premier point, n'est-ce pas? J'ai été trop... simplificateur, hein. Disons, Ce que les analyses heideggeriennes ici, de l'œuvre d'art en particulier, mais pas seulement, mais disons de l'œuvre d'art, puisque c'est ça dont on parle, s'efforce effectivement de remettre en question, c'est la séparation, la dichotomie entre quelque chose comme une ousia protée et une ousia de terra. Bon. Que, alors, ensuite, là, je vous suis entièrement, n'est-ce pas, que Aristote, contre Platon, ou plutôt contre ce qu'on appelle le platonisme, Platon, c'est trop compliqué, mais que Aristote, contre ce qu'on appelle le platonisme, lui-même, ait essayé de remettre en cause ce chorismos, c'est bien évident, hein, c'est bien évident, et Lucien, elle est tout entière inscrite. Elle est tout entière inscrite dans les temps singuliers. Elle est tout entière inscrite dans les temps singuliers. C'est tout ce que veut dire le « nu par Kane hein, » et l'impossibilité qu'il y a d'appréhender indépendamment de toute singularité quelque chose comme une essence. On trouva la même chose, je le dis aussi en passant, chez Husserl, hein, pour les husserliens d'entre vous, n'est-ce pas, le début des IDN 1, Wesen factum, hein, contrairement à ce qu'on pense, ça ne vise pas simplement à dissocier radicalement ce qui est de l'ordre de l'essence et ce qui est de l'ordre de la factualité, hein, puisque après avoir fait cette dissociation, ce que Husserl montre, c'est que même pour appréhender un factum comme tel, il faut en avoir une précompréhension essentielle, et la précompréhension essentielle eidétique, elle passe toujours par une ferraille, c'est longue, c'est-à-dire le rouge, c'est aussi celui de l'extincteur là-bas, etc. Donc, il faut corriger cette dissociation. Alors, pragmata, cremata, et aussi prokeira, dont on avait parlé, vous vous souvenez peut-être. Heidegger reviendra sur les cremata quand il commentera, n'est-ce pas, le passage de Protagoras, hein, cité par Platon, sur l'homme mesure de toute chose, hein, c'est crématone, hein, et pas pragmatone, ici. Je sais pas. Là aussi, je n'ai pas vraiment... Pourquoi est-ce qu'il choisit pragmata ici plutôt que cremata ou prokeira
Est-ce que c'est la même chose dans le tome sur le temps, enfin dans les passages sur le temps, enfin dans les prolégomènes? Tu te souviens pas?
Pragmata, c'est aussi pragmata. Non, c'est aussi...
C'est la première version, si on peut dire, c'est le brouillon.
C'est pragmata. Prokeira, qui serait le mieux, parce que c'est fort, c'est
vraiment...
Prokeira, ça apparaît simplement dans un cours qui n'a pas été traduit, hein, qui est consacré à la logique et à l'ontologie aristotélicienne, qui est le cours de la fin de la période de Fribourg et juste avant l'élection à Marbourg. Peut-être qu'il a voulu éviter les crémata à cause précisément de Protagoras. Bon. Les crémata, en revanche, il les commentera à plusieurs reprises dans l'appendice du texte qui sont dans les chemins sur l'image du monde, hein, où il y a une longue discussion sur Protagoras Descartes, hein, et dans le Nietzsche, où là aussi dans le Nietzsche où il y a une reprise de cette question pour montrer que quand Protagoras dit l'homme est la mesure de toute chose, mais c'est pas les choses ici, c'est les crématones, hein, l'homme est la mesure de toute chose, ça veut pas dire que on met au premier plan le sujet, quelque chose comme une préfiguration d'un ego cartésien. Donc il y a une très longue discussion, et assez intéressante et importante, n'est-ce pas, sur l'ego cartésien et le non-ego, le Dasein grec, ou l'ego quand même, disons, qu'on trouve dans des formules sophistiques, comme le dokein, par exemple le dokein moi. Oui, hein, dokein moi. Le dokein, l'apparaître, le sembler en grec, n'est-ce pas, se construit avec le datif dokei moi. Quel est le statut de ce moi, ego, hein, du dokei moi, et est-ce que ça peut être pris comme une préfiguration d'une subjectivité égologique à la Descartes, Heidegger à chaque fois dit non. Il n'y a pas d'égologie. Il n'y a pas d'égologie, même chez dans la sophistique. Mon ami Didier n'a pas l'air content. Tu vois, je suis pas d'accord, non ?
Ça se trouve dans l'époque des conceptions du monde, dans la traduction que moi je ne qualifierais pas.
Oui.
C'est page 134. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas de questions. Bon, c'est difficile, hein, je sais bien, mais. Bon, ben dans ce cas, on peut laisser le lièvre s'échapper du tableau et remercier encore Jean-François.